Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jacques Dang, le secrétaire de l'Université numérique en économie-gestion et le secrétaire de l'Université numérique. Et j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de l'ensemble des organisateurs, le réseau IAE France, bien évidemment, ONEJ, les universités numériques en santé et en sport et l'Université ouverte des humanités. Donc juste quelques mots pour vous dire que nous sommes 400 inscrits, que nous représentons à peu près une soixantaine d'universités, que nous avons le plaisir d'accueillir des participants des Outre-mer et également des participants d'Algérie, du Maroc, de Côte d'Ivoire avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, du Gabon et pour terminer le Sénégal avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors pour nous, à ONEJ et avec IAE France et avec l'ensemble des universités numériques, ce webinaire s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait depuis le début de cette crise, répondre aux problématiques brûlantes du moment. Donc la première semaine, c'était comment assurer les cours. La deuxième semaine, avec le vote de la loi sur l'urgence sanitaire et la prise des ordonnances pour l'enseignement supérieur, la question des examens. Et aujourd'hui, c'est la question, pendant que nous sommes en cette quatrième semaine de confinement, c'est comment maintenir, assurer l'équilibre et la santé psychologique de nos équipes, de nos enseignants et de nos étudiants. Et pour cela, nous avons le privilège de pouvoir accueillir nos collègues italiens, que je présenterai tout à l'heure plus longuement, qui connaissent cette même crise, mais avec 7 ou 10 jours d'avance, et qui pourront nous parler de ce qu'ils ont vécu, des difficultés qu'ils vivent aujourd'hui, et des perspectives qui s'ouvrent à eux. Je cède tout de suite la parole aux deux co-organisateurs que sont IAE France et ONEJ, donc Éric Lamarque, le président d'IAE France et le directeur de l'IAE de Paris, puis ensuite Christophe Fournier, le président d'ONEJ. Éric.
Bonjour à tous, et d'abord un grand merci à tous les participants qui se connectent et qui se connecteront au cours de ce webinaire de nous rejoindre. Effectivement, ces thématiques suscitent de l'intérêt après les deux premiers qui ont été rappelés. Moi, je voudrais d'abord et très rapidement adresser mes remerciements aussi à ONEJ pour continuer et poursuivre ce sur des problématiques liées à ce nouveau contexte. Je crois que les deux premiers webinaires avaient été un beau succès et avaient échangé avec pas mal de participants et d'institutions de diverses origines. Simplement signaler que ce sont des pratiques, je dirais, collaboratives et d'échanges auxquelles on est un petit peu habitué dans le cadre d'IAE France, donc ça correspond à ce que habituellement d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger des astuces, de prendre des retours d'expérience de là où, effectivement, où d'autres acteurs connaissent, alors en l'occurrence là on peut dire un peu malheureusement la même situation. Et je salue donc notamment Patrice qui en tant que directeur d'IAE ou qui a été jusqu'à il n'y a pas très longtemps directeur de Caen, d'avoir bien voulu apporter sa contribution. L'IAE de Caen étant un de nos instituts vraiment spécialistes sur toutes ces activités à distance. Voilà, je passe la parole à Christophe pour qu'il, effectivement, lui aussi, puisse vous accueillir et rappeler notre partenariat.
Merci beaucoup, Eric, de ce témoignage. Et encore une fois, comme je le disais, je suis ravi de pouvoir co-organiser avec IAE France et le réseau des IAE cet événement. Il faut bien parler d'un événement, hein, compte tenu du sujet qui est abordé et de l'ampleur de cette crise. Merci donc, oui, en effet, à Patrice de venir dans le cadre des IAE. Merci à Déborah, qui est une des salariés d'ONEJ et qui travaille au quotidien sur ces problématiques de e-learning. Alors, ONEJ, grâce à ses partenariats internationaux, donc, a des relations très fortes, notamment donc avec Susanna Sancassani, que je suis ravi d'accueillir. Et comme l'a dit Eric, malheureusement, ils ont quelques heures, quelques jours, quelques semaines d'avance. Et donc, j'ai peur, entre guillemets, que l'expérience soit transposable. Donc, essayons de gagner du temps grâce à ce témoignage-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est ici dans le cadre de l'université numérique, Et donc, je remercie Olivier Palombi de l'Université numérique thématique en sport et santé, hein, UNES.fr, donc, qui est professeur, puisqu'on dit HPQ dans notre jargon, et qui a délaissé son service au CHU de Grenoble quelques instants pour venir nous voir. Et quand on connaît la situation, on le remercie très, très vivement. Et puis, collaboration aussi avec UOH et par la Université numérique thématique dans le domaine des humanités, par lesquelles on est leur entremise, qu'on est rentré en contact avec Marie-Frédérique Baquet de l'Université Strasbourg, psychologie et psychanalyste. Je simplifie, je ne veux pas vous embêter. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Encore merci à IE France, encore merci à tous les intervenants de prendre du temps pour venir témoigner là. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire.
Donc, je reprends la parole juste quelques instants donc pour introduire et compléter ce que vient de dire Christophe sur Olivier Palombi, donc qui est professeur d'université, praticien hospitalier, et aussi vice-président de l'université Grenoble-Alpes et vice-président de UNES.fr, l'université numérique thématique de la santé et du sport. Et je me joins à Christophe pour le remercier très chaleureusement du temps qu'il nous consacre effectivement dans cette situation, où il va pouvoir aussi nous apporter l'éclairage du secteur de la santé. Olivier, je te cède la parole.
Oui, Eric, Christophe, Jacques, merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens tout d'abord à saluer effectivement cette initiative et la démarche que vous avez depuis le début, et surtout sur la richesse des thématiques qui sont abordées. Alors effectivement, je suis neurochirurgien. Je dois vous dire que concrètement, en tant que neurochirurgien, en particulier dans mon hôpital, eh bien c'est toute mon activité qui a été mise en pause, avec une organisation entière de l'hôpital pour accueillir et se préparer à accueillir les potentiels patients. Mais en pratique, cette communauté médicale, elle est d'un côté très très sollicitée, en particulier dans les réanimations, dans les services d'urgence, de médecine intensive, et beaucoup moins dans les services de chirurgie, comme je viens de l'expliquer. Ce qu'il faut peut-être signaler en introduction sur tout ça, c'est que c'est l'ensemble du personnel qui est concerné, et c'est avant tout les soignants, les infirmières, les aides-soignantes qui sont excessivement sous pression, et que le corps médical, malgré tout bien organisé, etc., est peut-être un des corps qui souffre le moins en termes de difficultés au travail et tout ce que ça implique. Bon, c'est mon avis personnel. Je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur effectivement ce qui est en train de se passer, avec une interprétation personnelle, mais qui a juste pour objet d'introduire la thématique. On peut considérer que ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une rupture avec l'existant. Alors, on aime bien utiliser les termes de disruptif, et je pense que ici, le terme de disruptif prend vraiment son sens. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, en quelques heures, on s'est retrouvé dans un univers complètement modifié, où la mobilité de chacun a été réduite à son strict minimum, et où surtout les interactions, tant sur le plan professionnel que personnel, se sont vues complètement modifiées. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle a été au départ provoquée par quelque chose qu'il faut à mon avis signaler dès le départ, c'est quand même la peur de tomber malade. Et donc du coup, au-delà des consignes qui ont pu nous être données et qu'on a tous suivies et qu'on suit tous à la lettre, c'est quand même la peur quelque part, la peur de tomber malade qui nous impose cette rupture et qui nous impose de suivre à la lettre les conditions dans lesquelles on est. Et ça, je pense que c'est pas anodin, parce que faire quelque chose sous le joug de la peur ou sous le joug d'une initiative personnelle, eh bien les démarches sont complètement différentes. Et j'ai l'impression que le fait de devoir réorganiser sa vie privée et sa vie professionnelle, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup d'attention, justement peut-être pour juguler cette peur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre processus qui est en train de s'opérer, ça a été dit sur plusieurs ondes, c'est que l'humain, par définition, s'habitue à la peur. Et on rentre progressivement dans un process où on a de moins en moins peur de la maladie. Et donc, du coup, on se décontracte un petit peu, je dis bien tout en suivant les consignes qui sont toujours à suivre. Et cette décontraction, ben, nous donne un certain nombre d'ouvertures. Et c'est là qu'on se réinterroge sur ben, comment on fait pour retravailler, comment je donne du sens à mon existence, comment je me reconstruis. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça concerne à la fois les enseignants, et puis plus que les enseignants, on va dire tout le personnel, et les étudiants. Et c'est assez intéressant de voir que c'est une reconstruction collective que tout le monde doit s'imposer. Donc, évidemment, toutes ces questions-là font qu'on s'interroge. Et aujourd'hui, par rapport à mon expérience que j'ai observée, ça a été quand même un engagement massif de beaucoup de personnes avec beaucoup de volonté de bien faire, beaucoup de volonté de se lancer sur des nouveaux outils, de réorganiser ses cours, etc. Et aussi une volonté des étudiants que les cours continuent et qu'ils s'investissent. Mais on constate aujourd'hui, et c'est peut-être que vous allez en discuter, qu'il y a un petit essoufflement quand même devant les difficultés que cela représente, devant un effort qui est peut-être pas toujours rétribué. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui que il faut qu'on fasse attention à durer un petit peu dans le temps. Et je serais très, très intéressé d'avoir le retour de ceux qui ont vécu ça sur cette notion de durer dans le temps et qu'on ait vraiment quelque chose de stabilité. Alors, pour revenir sur l'équilibre, le bien-être, les motivations, on voit bien que dans un contexte de peur, d'urgence et sans perspective, bah, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et donc, c'est pour ça que je voulais remettre ça dans cette perspective-là. Et donc, du coup, je vais cesser de parler. C'était juste pour introduire et j'espère que j'ai placé le sujet au bon niveau.
Un grand merci, Olivier. Je crois que effectivement, tu nous as mis dans le contexte, au cœur du sujet, et pour introduire ce que Susanna va pouvoir nous relater. Donc, Susanna, ce que je voudrais rappeler, pour la petite histoire, c'est notre collègue Florence Ducrot de l'Université de Lorraine et avec elle Déborah Arnold qui collabore sur des projets européens depuis une quinzaine d'années. Moi, je suis un peu plus récent dans cette histoire puisque je ne suis arrivé qu'en 2013 avec HEC pour travailler sur un projet collaboratif. Plus récemment, j'avais la joie d'être à Milan en novembre dernier pour la conférence Open Education Global. Et c'est vrai que nous avons échangé avec Susanna, avec ses collègues Ada, Matteo et d'autres, début février. C'était il y a peu de temps, mais c'est une éternité. Et à l'époque, nous disions « keep fingers crossed », mais personne d'entre nous ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui allait nous arriver. Donc aujourd'hui, c'est avec vraiment plaisir que j'accueille Susanna pour nous dire et nous apprendre et nous éclairer sur ce que nos amis milanais ont vécu. Susanna, je te laisse la parole.
Merci Jacques et merci à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous et chercher de faire le point de notre expérience. C'est très difficile de faire le point quand on est dedans les choses, mais quand même, je crois qu'il peut être utile, surtout aussi à nous, pas seulement en termes d'échange avec les autres professionnels et les autres amis. Je m'excuse un petit peu pour mon français, c'est pas comme je voudrais. Éventuellement, je vais mélanger un petit peu d'anglais. Vous m'excuserez pour ça, mais peut-être je vais manquer de quelques mots. Alors, peut-être je peux me faire aider de quelques slides pour faciliter la communication. Voilà, je crois que tout le monde peut voir maintenant mes slides. Voilà.
Pas de problème. On voit tout.
Parfait, merci. En premier, quelques données pour vous donner une idée de ce qui se passe dans la région, parce que comme vous savez, la Lombardie a été la région la plus concernée par le virus. Et on a eu jusqu'à ce moment presque 9 000 personnes décédées. Et le suspect est qu'en réalité, elles sont beaucoup plus parce que beaucoup de gens qui sont décédés pour d'autres raisons n'ont pas été testés en termes de positivité au virus. Et il y a des études qui sont en train d'être menées maintenant dans ces jours sur la différence entre les décès qu'on a normalement dans cette période et les décès qu'on a maintenant. Et ce n'est pas complètement expliqué par les plus 9000 que vous voyez ici. Alors peut-être ils sont peut-être plus, mais n'ont pas été catalogués comme dus au virus. Alors, ça vous fait comprendre que une situation comme ça, c'est très très lourde. Et en plus, vous voyez le nombre de gens en thérapie intensive qui sont presque plus de 1300. Et je peux vous dire que les places en thérapie intensive normalement disponibles dans la région n'arrivent pas à 900. Et si vous pouvez comprendre comme le système a dû répondre très très vite d'un changement, un changement complètement, vraiment frappant. Et la chose à laquelle Jacques à propos de laquelle Jacques a dit quelque chose avant, c'est qu'en réalité, c'est vraiment peu de temps. Le premier effet que nous a frappé sûrement, c'est une sorte de perte du sens du temps, parce qu'on est enfin au 8 avril et toute cette histoire a commencé il y a un mois et demi. Hein, et on a l'impression d'être dedans depuis vraiment longtemps. En Italie, les dates sont comme ça pour pouvoir faire des comparaisons avec la situation française. Le 21 février, on a eu le premier alarme en Lombardie avec beaucoup de cas qui sont éclatés soudainement dans la région de l'Adige. Et tout de suite, on a décidé de fermer les universités. Parce que les universités en Lombardie déterminent une mouvementation, un mouvement des gens dans l'entière région très très fort. Et alors la première décision a été de fermer immédiatement les universités. Quelques jours après, on est arrivé à fermer les écoles et les universités, pas seulement en Lombardie, mais en toute l'Italie. Et le 9 mars, le décret io resto a casa, je reste à la maison, qui a créé le lockdown dont tout le monde parle. Et c'est seulement le 11 de mars, c'est-à-dire moins qu'il y a un mois, que l'OMS a déclaré la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon université dans cette période? Alors, le premier, quand on a eu le décret de la fermeture de l'université qui arrivait d'un jour à l'autre. Hein, d'un jour à l'autre, hier, on avait les étudiants, le lundi, il n'y avait personne. Alors, vous savez que Internet, c'est particulièrement généreux de mémés, comme ils en l'appellent. Et vous voyez la dernière scène représentée comme ça. Et on a eu cette impression soudaine de vide, de désorientation, de perte de points de référence d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le concret? Alors, dans mon université, qui est une université avec 45 000 étudiants qui sont dispersés dans toute la région de la Lombardie, mais dans l'Italie aussi, et après à peu près 2000 profs. Comme vous savez, Politecnico di Milano, c'est l'université leader en Italie et au point de vue technique. On a des facultés d'ingénierie, architecture et design. Et on a décidé de mettre tout de suite tous les cours en ligne, en synchrone, avec des classes virtuelles et avec l'appui de d'une plateforme asynchrone où le professeur emploie normalement pour partager le matériel. Alors, le 2 mars, on avait déjà là une première tranche de cours en ligne. Et au 10 mars, tous les étudiants et tous les profs étaient complètement en ligne, en synchrone, en suivant l'horaire défini officiellement pour le semestre. Nous n'avons pas des examens maintenant parce que les examens ont été déjà faits en février. Alors, vous voyez, vraiment, en 20 jours, on est passé dans une situation où tout le monde était tranquille dans les classes avec les étudiants, à une situation dans laquelle tous les étudiants sont à la maison, tous les profs sont à la maison. Alors, on a tout de suite cherché de faire une réflexion sur ce que c'était très important de voir d'abord. Ah, peut-être Jacques n'a pas dit que je suis le responsable de la task force de l'innovation dans l'apprentissage. Nous sommes à peu près 40 personnes et nous sommes responsables de la faculté de development, de développement de la fac, de tout ce qui est apprentissage digital. Et si on était vraiment dans la première ligne, on peut dire. Alors, le souci numéro un a été la technologie. Et je dis le souci des décideurs, pas forcément le nôtre. Dans le sens que pour les décideurs, et ça a été vraiment partagé dans toutes les universités d'Italie, avec les collègues, on a eu tous la même impression. Souci numéro un, comment faire les choses? Avec peu de réflexion sur le pourquoi. Pourquoi nous devons donner tout de suite une continuité? Alors, la réflexion sur le pourquoi, c'était très important parce que je dois donner une continuité parce que c'est mon devoir, parce qu'il est utile socialement, parce qu'il est vital pour les étudiants, parce que je tiens autant des étudiants, parce que je veux donner un message pédagogique de réponse aux problèmes très efficace. Il aurait fallu vraiment une petite réflexion sur ce pourquoi, parce que des différentes réponses peuvent porter à des différentes solutions aussi au point de vue technique. Et en réalité, quand je peux dire l'élan spontané a été cherchant de la technologie qui nous permet de continuer comme si rien n'était. Ça, c'était le mot d'ordre, comme si rien n'était. Alors, on ne parlait pas de rien, comment on fait avoir des leçons comme si c'était en présentiel? Tandis que et vous voyez, il y avait ici, c'est notre laboratoire didactique, et on a eu des journées terribles qui commençaient à 7h du matin, terminaient à 10h le soir, pour tester tous les systèmes et voir comment on pouvait trouver la situation la meilleure entre une plateforme synchrone, une plateforme asynchrone, des périphériques, des webcams qui pouvaient être adaptés pour répondre les professeurs qui ont besoin de dessiner, les tablettes graphiques et tout ça. Alors, une grande concentration sur les moyens techniques et évidemment aussi sur les aspects commerciaux, comme en parlant des nombres comme ça, les aspects commerciaux ne sont pas, sont quand même importants, hein, parce que les ressources, enfin, sont données. Alors, nous, en tant que centre qui s'occupe de l'innovation méthodologique et technique dans la didactique, on était très, très, très concernés du fait qu'en réalité, le souci numéro zéro avant le numéro un aurait dû être le soutien aux enseignants et aux étudiants à risque d'être submergés par la réalité. Dans ces premiers jours-là, vraiment, on avait une sensation terrible de risque personnel, de risque familial. Après, jusque quelques jours ou une semaine, tout le monde connaissait quelqu'un qui était décédé, qui était à l'hôpital, qui était en isolement forcé à la maison, qui avait fait le tampon et était positif. Et tout le monde devait gérer les choses que les enfants étaient à la maison et il fallait les suivre dans le même temps que vous travaillez. Enfin, la vie quotidienne et pas seulement pratique, mais la vie psychologique des personnes avait changé complètement d'un jour à l'autre. Et notre souci était complètement sur la technologie. Alors, et c'était très, très difficile de chercher de porter ce souci à l'attention des décideurs parce que le souci de la technologie et des moyens techniques et pratiques, c'était tellement fort ces moments que les autres choses paraissaient quelque chose de très léger, peut-être pas vraiment nécessaire. Mais vous savez, j'ai une formation, je suis designer et architecte, après j'ai pris mes spécialisations dans la didactique, mais vous savez, il y a un fameux designer qui dit que les choses belles fonctionnent bien. Dans le sens que si tu vois quelque chose comme belle, c'est plus facile que tu acceptes de trouver des compromis pour l'employé, même si elle n'est pas parfaite. Et dans cette situation, c'était quelque chose comme ça. Il fallait de prendre en compte les difficultés réelles des personnes et pour faire si qu'elle acceptait aussi toutes les difficultés, les obstacles qu'il avait à dépasser pour employer la technologie, pour modifier leur approche didactique, pour accepter cette grande difficulté de merger la vie personnelle familiale avec la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité de petits espaces qu'on avait. Et vous voyez, ça c'était le climat. Hein. Les dernières rencontres qu'on a fait en présence, vous voyez les visages. Vous pouvez voir, il n'y avait pas de grands sourires. Hein. Et on était placés comme ça pour maintenir la distance sociale et tout ça. Mais si vous regardez les visages et les yeux, vous comprenez que c'était pas un grand moment. Alors, ça a été la dernière réunion en présentiel avec les profs. Et après, on a commencé à travailler avec eux en ligne. Alors, là, dans une des premières rencontres, on a leur demandé, et nous, en ligne, qu'est-ce que nous fait venir en main? Qu'est-ce que nous pensons quand nous sommes en ligne avec nos étudiants? Et vous voyez, le premier mot, c'est distance, solitude, parler en calculateur, parler tout seul, parler avec l'écran, silence, un espace immense. Une sensation de quand je connais de désorientation et de solitude. Vous voyez ici, c'est tout petit, mais ils vont sourire avec un point interrogatif. Et si l'idée d'être vraiment disconnecté dans un espace pas déterminé, dans un temps pas déterminé et dans une sensation de totale solitude. Pour chercher de déménager, ça c'est OK. J'ai l'impression que c'est que la OK, je passe ici. Et les mémés ont changé. Vous voyez, ça c'est toujours la dernière scène. Et dans les premiers jours, on avait la dernière scène complètement vide, hein. Et après, on a commencé à voyer dans les espaces des étudiants, des mémés, avec « Est-ce que vous me voyez ?» Est-ce que vous me voyez avec tous les gens dans les petites fenêtres de la visioconférence ? Alors, on a commencé à affronter cette phase, mais avec ce grand point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment une relation où je suis ici tout seul en relation avec un écran, avec un calculateur? Alors, ce qu'on a fait, ça a été de complètement recréer un environnement de soutien, un écosystème de soutien de l'apprentissage à distance et des enseignants en particulier, constitué par beaucoup différents éléments. Alors, une place très très importante a été jouée par les comptoirs psychologiques qui ont été mis à disposition des profs, des étudiants et du personnel technique administratif aussi. Aussi, dans cette phase, vraiment pas une très petite prise de conscience de la part des décideurs et d'une action propositive bottom-up par les experts qui étaient déjà engagés dans le développement des compétences, dans le support aux enseignants. Et qu'est-ce qu'ils nous ont suggéré? Ils nous ont dit que nous étions dans cette phase-là, dans une phase dans laquelle, comme dans toutes les urgences, dans la première phase, tout le monde est concerné des problèmes pratiques. Il faut résoudre les problèmes pratiques, comment je peux me connecter, comment ça marche, comment je peux organiser avec les enfants, et tout ça. Mais généralement, cette phase est accompagnée par une grande gratitude pour les aidants et une sensation de solidarité parce que on a cette sensation de devoir jouer un jeu commun pour s'en sortir. En effet, je pourrais vous montrer dans ces premières semaines, beaucoup, beaucoup de messages, d'emails, merci, c'est fantastique, vous faites un travail extraordinaire, c'est incroyable, vous êtes nos héros, des choses comme ça. Qui était en réalité d'expression de demande d'aide, restez avec nous et aidez-nous parce qu'on a besoin de faire des choses ensemble. Nos amis psychologues nous avons aussi mis sous l'avis qu'il y aurait eu une grande phase et que dans cette seconde phase, les gens auraient commencé à faire les comptes sur ce qu'il avait perdu, ce qu'il était en train de perdre, ce qu'il aurait perdu après, et les sentiments généraux auront changé. est plutôt vers une veine plutôt dépressive, des attitudes un peu de contraste, et sinon, franchement, d'inquiétude et de critique. Et effectivement, ça passait comme ça, exactement. Et on est passé dans une phase un peu plus difficile, un peu plus critique, avec les gens plus fatigués, et tout, c'était très, très dur à faire, très, alors on a cherché de répondre à ça avec des actions de soutien à la relation. Alors, on a organisé des séminaires pédagogiques, des petits groupes de travail, des forums de discussion qui avaient l'apparence d'être des supports professionnels, mais qui s'est dépassé d'une façon très colloquiale, très chaude, très accueillante, hein, très, très welcoming, je ne sais pas le nom en français, pour faire sentir vraiment les gens soutenus et pour faciliter les échanges. Ça a très, très bien marché. Et on a eu vraiment des centaines de participants, qui c'est pas mal parce qu'avec 2000 enseignants, avoir 560 participants à ce genre de support, c'est vraiment pas mal. Et on a cherché de les faire évoluer, et soit sur les aspects des contenus, soit sur leur forme, en accompagnant les exigences cherchait de cueillir dans l'air. Alors, pour exemple, les petits groupes de travail, au début, c'était des petits groupes de soutien technique. Après, ils sont devenus des petits groupes de travail méthodologique. Maintenant, ils sont des petits groupes de change expérience. On cherche de soutenir les différentes phases qui vont se passer. Et aussi, les séminaires pédagogiques vont soutenir les différents thèmes qui vont sortir dans l'expérience de notre communauté. Pour exemple, maintenant, on est vraiment dans une phase de grand... tout le monde se sent beaucoup fatigué. Il y a une grande déception qu'on ne pourra pas faire les fêtes de Pâques avec la famille et tout ça, parce que on avait au début cette idée que pour Pâques, peut-être les choses pourraient aller mieux, mais c'est pas comme ça. Et alors, on a cherché de recréer des situations d'intérêt, comme nous aurons les examens début juin. On a commencé à lancer des réflexions sur comment on peut faire les examens au point de vue méthodologique, au point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut faire, les problèmes, les solutions et tout ça. Mais c'est et à inviter des experts de l'extérieur à soutenir la curiosité pour les situations sociales. Et aussi, on a cherché de pousser les enseignants à créer et à soutenir des situations sociales parmi les étudiants. Parce qu'on avoue que les étudiants, souvent, ils sont en relation avec des amis, mais pas avec leurs collègues de l'école, de l'université. Alors, soutenir aussi ce genre de relations avec des travaux de groupe, des discussions en synchrone, asynchrone, et tout ça. Au point de vue pratique, et que, ça c'est important. On a cherché de porter toujours la réflexion avec nos collègues sur deux dimensions. Une dimension valeur. Alors, ton rôle est très important. C'est un rôle civique dans ces moments parce que toi, tu es un sujet clé pour maintenir un rythme, un sang aux journées dans les familles, un rôle aux jeunes qui sont enfermés dans la maison et tout ça. Mais aussi une dimension pratique sur la pratique pédagogique qui et comment la modéler dans la situation et comment profiter des opportunités des technologies. Alors la première chose qu'on a dû résoudre, c'était ça. Vous connaissez bien le test des trois montagnes, c'est piégé, non? Si tu vas créer une situation comme ça avec une grande montagne et deux petites, et tu demandes à un petit enfant de te décrire ce qu'il vit, ce qu'il voit, il te dira je vois ça et ça. Mais si tu es de l'autre partie et lui demande mais moi je que vois, il n'est pas c'est très difficile pour un enfant dire ce que l'expérimentateur est en train de voir. Nous avons vu cette difficulté aussi dans notre expérience d'enseignant et avec nos collègues parce que l'idée que l'expérience d'être seul, de n'être pas, de ne voir bien notre interlocuteur était ça qui était très frustrant pour les professeurs. Il tend à la projeter aussi sur les étudiants, mais c'est pas comme ça, parce qu'en réalité, les étudiants, ils voient très très bien, et moi quand dans la classe en présentiel, le prof, et ils se sentent très bien en relation avec le prof. Le problème éventuellement pour eux, et le problème réel, c'est la relation avec les étudiants, les autres étudiants. Alors, réfléchir avec les profs sur la différence entre sa perception, la perception des étudiants et comment résoudre les problèmes des deux avec une dynamique plus interactive dans la leçon, en facilitant les interactions avec les étudiants et entre les étudiants. Mais cette interaction doit être pas une interaction quelconque, doit être une interaction évidemment efficace, mais surtout intégrée dans la réalité. Intégrée dans la réalité, parce que c'était un autre bias qu'on a vu avec nos collègues, que tout le monde cherchait de ne pas parler de l'épidémie. De ne pas parler de maladie, de ne pas parler d'émergence. On est dans la leçon, on parle de chimie, on parle de mathématiques, on parle d'histoire, on parle de ça, de là, mais on ne parle pas. C'est un tabou. Hein? Alors, les tabous ne sont jamais quelque chose de bien pour personne. Il était très, très important de déconstruire cette perception de tabou et faire entrer la réalité dans l'interaction avec les étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de la région de Bergamo, qui a été très, très bouleversée avec les chars armés qui ont dû emporter les décédés parce qu'il y avait assez d'autres moyens. Hein. Alors, intégrer la réalité dans la leçon, et ça a été difficile dans les premiers pas, mais vraiment libératoire et utile à créer une relation authentique, pas ce sens de tabou et de falsité. Je suis en train d'arriver à presque à la fin. Et très important pour nous aussi est prendre en compte la facture numérique, parce que alors nous sommes en Lombardie, alors c'est une région riche qui est considérée très avancée, tout ça, internationale, etc. En réalité, il y a des zones dans les montagnes qui ne sont pas si bien connectées, et il y a des étudiants qui vivent seuls et qui n'ont pas la possibilité de se payer des bonnes connexions. Ils ont le 4G avec la petite clé là, et il doit payer, et c'est un problème. Prendre en compte la facture numérique aussi dans des régions riches, c'est très important. Une réponse partielle qu'on a cherché de donner, la première, recommander d'enregistrer tout le synchrone et de mettre à disposition tout le matériel qu'il était possible de mettre à disposition. Ainsi, les étudiants pouvaient profiter peut-être de la connexion de quelqu'un d'autre et download tout le matériel qui était nécessaire dans des moments différents. Ça, c'est une solution partielle. Il y a une initiative aussi ici très, très jolie qui est adopte un étudiant dans le sens qui, si tu sais que dans ton bâtiment, il y a des étudiants qui n'ont pas le Wi-Fi, ouvre ton Wi-Fi et permet leur de l'employer pour étudier. Et ça, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire ça. Enfin, maintenant, nous sommes en train de travailler à propos de l'évaluation. Encore, la technologie a risqué d'être au sang. On a commencé à dire on va trouver une technologie très très sûre qui va nous assurer d'être sûr que personne ne va faire du cheating. Mais heureusement, merci à l'expérience qu'on a eue jusqu'à ce moment, on a réussi à introduire tout de suite dans le débat le fait que peut-être le problème, c'est de changer façon de faire évaluation et d'aller vers une évaluation authentique qui, dans laquelle il n'est pas nécessaire faire du cheating parce que tout n'a pas d'avantage à faire du cheating si l'évaluation est vraiment authentique. Je crois d'être presque à la fin de mon temps. Vous voyez, et vous rappelez qu'au début, la mot dans le milieu de l'écran, c'était distance. On a fait encore cette cloud des mots avec nos collègues et maintenant, les mots-clés, c'est interaction. Alors, pour moi, ça, c'est un signe, quelque chose de bien en train de marcher en termes de relations entre eux et avec les étudiants. Et en conclusion, je peux dire que pour l'instant, on a très clair dans nos groupes qu'il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un bon modèle pour la didactique à distance. Il faut une méthodologie partagée basée sur une culture de projet dans un écosystème favorable dans lequel les professeurs sont supportés dans la projectation, dans le design d'une bonne didactique qui est soit une didactique de qualité, mais pas forcément dessiner tous de la même façon. Mais on va peut-être parler de ça avec les collègues qui sont en ligne avec nous. J'espère de ne pas avoir employé trop de temps et je vous remercie beaucoup.
Un très grand merci, Susanna, pour cette intervention qui vraiment nous donne un éclairage sur ce que vous avez vécu et qui, pour beaucoup d'entre nous, entre en résonance avec ce que nous avons vécu dans les phases que nous avons connues jusqu'à maintenant et qui nous laisse entrevoir peut-être ce que nous allons devoir affronter. Et ça sera intéressant, effectivement, un peu plus tard de pouvoir discuter des écueils, des pistes que vous avez dans lesquelles vous êtes engagé et a posteriori qui n'étaient pas nécessairement les bonnes et de voir comment vous avez réussi à avoir les bonnes. Donc je vais maintenant céder la parole à Marie-Frédérique Baquet qui est à la fois praticienne, à la fois enseignante puisqu'elle est professeure à l'Université de Strasbourg et à la fois directrice d'une unité de recherche. Donc, il va pouvoir nous donner un éclairage à la fois théorique et pratique sur ce que nous avons vécu, donner un éclairage peut-être en résonance avec ce qui a été dit par Susanna, et ouvrir pour nous des pistes de réflexion et de compréhension. Marie-Frédérique.
Merci beaucoup, Jacques Dang. Je voudrais vraiment remercier Susanna Sankasani. C'était vraiment absolument passionnant, cette évolution en toute franchise, en toute honnêteté de ce qui s'est passé. Et je dis franchement bravo à l'Italie pour avoir progressé de cette façon-là. J'ai beaucoup pensé à vous parce que j'avais une doctorante qui était à Rome et qui était franchement assez triste de la situation qui s'était produite là-bas et qui m'envoyait des messages vraiment qui m'ont profondément touchée par rapport à elle. Alors comme l'a dit Jacques Dang, donc je vais me servir de plusieurs choses puisque je suis à la fois dedans et dehors. Donc dedans, universitaire comme vous, Susanna, et dehors, puisque dans ma pratique de psychologue et psychanalyste, j'ai beaucoup d'expérience de situations de crise majeure. Alors, ces situations de crise majeure, c'était des situations de problématiques de santé. Par exemple, en tant que psychologue, j'intervenais avec Médecins du Monde lors d'un tremblement de terre en Arménie. Je suis également beaucoup intervenue avec les professions funéraires lorsque le Concorde français s'est écrasé dans la banlieue de Paris. Et je continue à faire partie de la cellule médico-psychologique d'urgence. Donc, j'interviens dans des situations d'urgence. Et à part cela, je me suis spécialisée dans la question du deuil et de la mort, et sur un plan à la fois pratique et également scientifique, puisque je dirige une revue qui s'appelle « Études sur la mort », à laquelle participent d'ailleurs de nombreux Italiens dont nous parlerons peut-être. Mais là, à la demande de Jacques Dang et de l'IAE Paris et de l'ONEJ, je me suis penchée sur les questions de motivation, de volonté et bien sûr de sentiment d'auto-efficacité. Donc je vais faire un petit rappel très rapide sur le plan théorique puisque ça fait longtemps qu'on travaille et je vais citer Albert Bandura, je vais citer Schwarzer, je vais citer de nombreux auteurs dont je pourrais donner les références, mais ça fait longtemps qu'on travaille sur la question de la motivation. Donc là, ce qui m'a frappé en France chez les universitaires, c'est après la première crise et le début du confinement, après les premiers états de véritable sidération, on va dire, qu'ils ont partagé d'ailleurs avec les étudiants, eh bien, les universitaires se sont vraiment, comme vous à Milan, se sont vraiment très vite remis au travail. Mais bien sûr, et là c'est ce que je vais explorer, et d'avance pardonnez-moi, je dis pardonnez-moi parce que tout simplement je vais m'attaquer aux aspects latents, aux aspects qui ne sont pas manifestes, c'est-à-dire tous les processus défensifs dont nous faisons preuve, et bien sûr je m'inclus parmi ceux qui forcément se défendent contre la situation, et d'autre part les processus d'adaptation. Hein, qui vont nous permettre de travailler dans une situation extrême. Car effectivement, c'est une situation extrême. Et comme vous l'avez dit, Susanna, il y a eu un déni de cette situation chez les universitaires qui, comme vous le savez, sont habitués à maîtriser, à contrôler à la fois les étudiants par des défenses qui sont bien connues, évidemment, mais aussi par des processus qui sont intégrés par l'université, comme le contrôle des examens, comme le contrôle de la pédagogie à travers nos techniques, et comme, bien sûr, la valorisation que ressentent les professeurs d'université et les maîtres de conférences en France par leur statut qui n'est pas valorisé sur le plan des émoluments financiers, mais qui, en revanche, est un statut qui est assez bien reconnu. Donc, je vais traiter très rapidement de la question de la motivation, de la question du sentiment d'auto-efficacité et de la question, bien sûr, de la volonté. Et après avoir abordé tous ces éléments qui sont liés aux éléments conscients, d'accord, qui sont visibles et qui sont les éléments du moi, je vais bien sûr aborder les éléments inconscients qui, eux, sont peu visibles, sauf à travers les lapsus, les actes manqués, mais qui sont en fait sous-jacents à notre capacité à nous adapter. Car effectivement, pour nous adapter, on ne peut pas faire preuve que de volonté et de contrôle. On est amené à avoir une connaissance minimale de son fonctionnement psychique interne. Donc, c'est vrai que là, la psychanalyse va évidemment beaucoup m'aider. Donc, pour tout ce qui concerne la volonté et la conscience, d'accord ? Donc, je vais vous parler de, premièrement, la motivation. Hein, la motivation, elle est à la fois liée à des forces internes et à des forces externes. Donc, les forces internes, eh ben, c'est très clair, c'est à la fois la récompense et en même temps la sanction du confinement. Alors, la récompense en premier, eh bien, je suis ravie d'être confinée puisque enfin, je vais pouvoir lire tous les livres qui traînaient dans ma bibliothèque et que je m'étais bien sûr promis de lire un jour. La motivation extrinsèque, eh bien, extrinsèque, elle est liée aux récompenses et aux sanctions, c'est-à-dire à ma perception de tout ce qui va m'arriver de positif ou de négatif à travers le confinement. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver de négatif ? Eh bien, je risque la maladie, je risque une contravention, puisque maintenant, nous sommes sanctionnés. Et donc, il existe pour chacun d'entre nous une forme de continuité de cette motivation, c'est-à-dire que nous pouvons passer d'une motivation contrôlée, je dois le faire, je dois enseigner, je dois me confiner parce que sinon je vais bien sûr être contaminée, etc. Et c'est tout ce que les anglo-saxons appellent la mastivation, du verbe to must, hein, devoir. Et donc, cette notion de mastivation, elle est à la fois liée à nos valeurs surmoïque, c'est-à-dire ce que la société me demande de faire, d'un côté, et puis aussi à une pression interne que je ressens et que vous avez très bien montré dans la photo qu'on a vue où on voit tous les enseignants milanais, j'imagine, qui sont là, donc espacés chacun de 2 mètres et qui ont une tête, vraiment une tête tout à fait déprimée, très clairement déprimé, hein, personne n'a le sourire, on sent vraiment une certaine forme d'angoisse. Et donc, ces pressions externes, nous les avons, en tant que, bien sûr, enseignants, mais aussi en tant que citoyens, nous les avons ressenties très fortement. Alors, de l'autre côté, dans la motivation, il y a tout ce qui relève du libre arbitre et de cette fameuse volonté. C'est ce que les anglo-saxons appellent « wantivation », c'est-à-dire ce que je veux faire. Et donc, effectivement, ici, notre volonté, hein, notre volonté interne va être tout de suite stimulée et je vais avoir envie, en tant que professeur, de me déterminer en toute liberté pour des motifs qui sont rationnels, bien sûr, et pour des motifs qui sont contrôlés. Donc, je vais essayer de faire face à la fois à la demande qui m'est faite de mes étudiants et je vais également mettre en avant ma personne, mon moi, pour faire ce que je dois faire. Mais je le fais avec ma volonté. D'où un sentiment d'auto-efficacité, donc qui lui aussi contribue fortement à la motivation, c'est-à-dire que je vais tirer de mon action, alors avec mes étudiants, avec mes collègues, je vais tirer l'impression que je continue à croire en moi, je continue à constater mes propres capacités, et finalement je fais face, hein, to cope with, je fais face à la situation extrême. Donc, vous voyez, là, je viens de vous écrire très simplement des éléments qui relèvent de la situation consciente. D'accord ? Et cette situation consciente, vous l'avez très bien décrite, vous l'avez montrée à travers les 2 schémas d'analyse du discours où on voit le nuage de mots qui apparaît. Donc, premièrement, le premier élément du nuage de mots de votre premier schéma, c'était la solitude. Et le deuxième mot du schéma, c'était l'interaction. Du deuxième schéma, pardon, c'était l'interaction. Hein, donc là, on voyait très fortement le changement. Mais, à mon avis, ce changement passe justement par tout le soin que vous avez donné à vos enseignants. Hein, on l'a très bien vu dans votre soutien. Hein, je trouve que c'est absolument admirable ce que vous avez mis en place. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup passionnée parce que vraiment, grâce à vos petits forums, grâce à vos groupes d'interaction, vous êtes parvenus à ne pas céder à la crise. Et c'est là où je vais donc introduire les questions inconscientes. C'est-à-dire que ici, la psychanalyse va vraiment nous aider, puisque la psychanalyse travaille. C'est une pratique qui permet à chaque individu de chercher ce qui est caché, hein, ce qui est latent derrière les attitudes du moi. Donc, parmi ce qui nous a permis à nous, les profs, enfin les universitaires, on va dire français, d'agir, eh bien, ça a été d'abord le recours, évidemment, à notre université, c'est-à-dire notre institution. Hein. Et donc, on a aussitôt, comme vous, exactement, on a plongé dans la technique, bien sûr, et j'ai beaucoup aimé la scena, donc la scène, hein, le fameux tableau de Leonardo. Et donc, voilà Leonardo qui n'avait plus aucun personnage et qui maintenant, voilà... Alors, le Fils de Dieu, hein, qui est là, tout puissant, me voyez-vous, hein, avec cette dimension, bien sûr, de la vision qui est très puissante en Occident. Hein, et il faut insister sur cette dimension de la vision très forte. Et là, je voudrais juste illustrer les éléments inconscients par des travaux que j'ai menés sur l'épuisement professionnel. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le burn-out. Et je travaille spécialement sur l'épuisement professionnel des psychologues, des soignants, des médecins en particulier, et également de la police. Alors pourquoi la police ? Bien parce que la police a la difficile fonction d'annoncer la mort à des familles, vous savez, les deux gendarmes qui arrivent, qui frappent à la porte et qui veulent juste dire, déposer la douloureuse sanction de la vie, la douloureuse sanction de la réalité, votre enfant s'est tué sur la route. Vous voyez, ça, ce sont des situations qui sont extrêmement anxiogènes et douloureuses pour la police. Mais pour revenir aux psychologues, puisque j'ai étudié le burn-out chez les psychologues, ce qui frappe beaucoup dans la souffrance au travail, hein, c'est premièrement la surcharge émotionnelle. D'accord, la surcharge émotionnelle, donc on vient de le voir avec la description des deux policiers qui annoncent la mort d'un jeune enfant sur la route, pour eux, c'est une charge émotionnelle extrême. Donc, quelle est la surcharge émotionnelle des universitaires? Et c'est là où nous arrivons à une situation très intéressante. C'est que, pour la première fois, c'est, je dirais, dans les 2 ou 3 ans passés, nous nous sommes intéressés à la situation économique des étudiants. Et en France, avec un baccalauréat qui touche maintenant la très grande majorité, plus de 80% de nos jeunes, eh bien, nous avons un nombre de jeunes qui sont entrés à l'université qui est extrêmement important. Et parmi ce nombre de jeunes, bien sûr, ils ont été séduits par l'université française parce qu'elle est quasiment gratuite. C'est-à-dire que le coût d'une inscription, par exemple, en master, est de 190 €. Hein, 190 €. Donc, c'est quasiment rien. Mais bien sûr, pour nos étudiants, c'est énorme, et je le conçois fortement, ainsi que pour leurs parents. Donc là, à travers la crise que nous venons de vivre du confinement, nous nous sommes d'autant plus rendus compte de la précarité de nos étudiants qu'ils n'avaient pas Internet chez eux. Ils partageaient Internet avec les petits frères, les petites sœurs qui eux-mêmes étaient à la maison. Ils renforçaient le sentiment de fracture numérique avec leurs parents, ce qui est très difficile pour ces jeunes, car bien entendu, vous le savez, dans un groupe, on souhaite toujours maintenir un consensus social, parce que nos étudiants ne sont plus des adolescents, même s'ils viennent juste de sortir de l'adolescence, mais ils sont dans la phase où, après s'être révoltés contre leurs parents, ils souhaitent de nouveau étayer le consensus, c'est-à-dire le bon fonctionnement du groupe. Donc, la précarité de nos étudiants a fait que le sentiment de charge mentale, hein, on en a parlé, je l'ai vu dans les questions, le sentiment de charge émotionnelle pour les universitaires a été renforcé, puisque à travers l'utilisation de la technique, pour tout simplement donner leur cours à leurs étudiants, nos collègues universitaires ont dû se rendre compte et reconnaître la précarité et donc la souffrance des étudiants. Et ceci fait partie de la première dimension du burn-out, tout simplement, de la souffrance professionnelle, c'est la surcharge émotionnelle. Le deuxième aspect du burn-out, qui est bien connu, de l'épuisement, encore une fois, professionnel, c'est ce qu'on appelle « cynicism » en anglais, qui veut dire que, tout simplement, confronté à une très grande charge émotionnelle, nous, donc les universitaires, mais aussi les policiers, mais aussi les médecins, mais aussi les soignants, nous allons nous mettre à distance des malades ou des étudiants. Encore une fois, je continue la métaphore. Nous allons nous mettre à distance pour justement ne pas être touchés par cette charge qui est liée à la... Ben oui, on est obligé de reconnaître que nos étudiants sont pauvres, que nos étudiants ne peuvent pas avoir accès à la technique et que nos étudiants, finalement, ont d'autres choses à faire également que de se former avec nous. Donc, cette deuxième dimension, la dimension de cynicisme, hein, la dimension de déshumanisation, en fait, nous l'avons d'autant plus ressenti que nous étions seuls dans notre alcôve, dans notre petit univers personnel, et que nous avions affaire à des étudiants que nous ne voyons plus, même si nous les voyons dans nos séances, mais nous ne les voyons plus personnellement. Et ceci a contribué à la deuxième dimension du burn-out, c'est-à-dire la déshumanisation. Et enfin, la troisième dimension du burn-out, de la souffrance professionnelle, c'est bien sûr la perception que ce que nous faisons, notre travail, est en lien avec notre idéal du moi. C'est-à-dire que nous avons... Alors surtout, a fortiori, permettez-moi, en tant qu'universitaire, nous avons un idéal qui est assez haut placé, comme vous le savez. Alors certains s'en défendent en disant que oui, ils font de la recherche, ce sont des chercheurs, etc. Ou bien ce sont de grands pédagogues, mais malgré tout, vous le savez bien, et là je m'adresse à votre partie consciente et inconsciente, et je m'adresse aussi à moi-même bien évidemment, nous sommes donc tous motivé par ce sens de l'accomplissement qui relève de notre idéal. Donc vous voyez qu'ici, à travers le confinement, nous avons perdu, il faut bien le dire, une partie de notre sens de l'accomplissement, puisque au fond, nous ne faisons nos conférences que devant notre bureau, nos livres, et nous n'avons plus nos étudiants, je dirais, sous la main, c'est-à-dire en interaction, comme vous l'avez très bien décrit, pour pouvoir finalement nous renforcer, et donc renforcer ce fameux sentiment d'auto-efficacité. Donc, je voudrais maintenant... Je crois que j'ai défini assez clairement maintenant les impressions, vous voyez, qui sont liées à la fois à cette motivation assez puissante que nous avons habituellement et qui a été bien sûr contrariée par la situation de crise. Alors, comme vous l'avez dit, Susanna Sancassani, les universitaires, mais comme n'importe qui, je dirais, au départ, ont été touchés de plein fouet par la crise en tant que citoyens, ça c'est très clair. Leur vie a complètement changé, bien sûr. Leur vie s'est parée, hélas, d'un certain nombre de frustrations. Les déplacements, les échanges, les congrès, etc. Tout ce qui faisait la valorisation a été évidemment remis à plus tard. D'autre part, nous avons dû faire face, vous l'avez très bien dit également, à l'angoisse personnelle de la maladie. au fait d'avoir été aussi confrontée à des personnes malades, et sans parler des craintes qui pouvaient nous submerger lorsque des membres de notre équipe, par exemple dans mon équipe, 4 personnes sur 10 ont été malades, ce qui est quand même très important, hein. Donc des membres de notre équipe pouvaient être touchés et notre famille pouvait être également confrontée, bien sûr, à la crise, donc au risque de contamination, voire à la mort, puisque nous tous, nous avons des parents, des grands-parents très âgés, enfermés chez eux, etc., etc. Donc ça a été dénié parce que considéré comme la part personnelle, la part privée qui ne peut pas être échangée, sauf avec le médecin du travail de l'université ou éventuellement un psychanalyste personnel. Donc en fait, nous nous sommes vraiment défendus de toute cette part et nous avons dénié donc cette atteinte. Il y a un autre aspect qui est plus complexe, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que confronté au fait de rester chez soi, eh bien les éléments très positifs que certains d'entre nous on peut y trouver et moi-même bien entendu, ces éléments très positifs ont été niés. Alors qu'en fait, les éléments très positifs sont quand même là, c'est-à-dire que finalement, je peux travailler sur mes articles, je peux travailler sur mes recherches, alors c'est vrai que c'est compliqué, mais je peux quand même le faire. Donc là, par rapport à cette dérégulation de notre programme scientifique, je pense qu'une reconnaissance des éléments positifs aussi du confinement doit avoir lieu, et que ça, c'est quelque chose qui me semble important. Vous avez parlé également du déplacement sur la technologie. Oui, c'est vrai, je dirais que dans un premier temps, il y a un déplacement qui est dû tout simplement au maniement de la technologie. Alors là, pour certains, c'est vrai, ça a été une nouveauté. Pour d'autres, moi, ça fait presque 3 ans que je fais des consultations en téléthérapie. Donc, personnellement, moi, ça ne m'a pas du tout changé. Et bien sûr, j'ai la chance de pouvoir parler facilement face à un écran. Et c'est pas du tout la même chose pour tous les collègues. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Susanna, c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir. Et on était en phase, vous voyez, ascendante d'utilisation de ces technologies, par exemple pour des congrès auxquels on n'a pas pu se rendre pour des questions de grève, etc., etc. Mais on n'était pas prêt. Ça, c'est vrai. Enfin, vous avez parlé de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est la demande d'aide. Et là, alors là, je voudrais proposer quelque chose pour, bien sûr, pour tous nos collègues, c'est que nous pouvons demander de l'aide. Et vous avez très bien dit, Susanna, que nous pouvions, bien sûr, mettre en place de façon très adaptative des séminaires pédagogiques, des forums de discussion, des petits groupes. Et là, je voudrais vraiment insister sur ces petits groupes. Car effectivement, je vous ai parlé donc de tous les éléments conscients dans la motivation, dans le sentiment d'auto-efficacité, etc. Et je vous ai parlé des éléments inconscients, donc dans les défenses dont nous prendrions conscience progressivement et dans les tentatives d'adaptation. Alors, pour ce qui est des petits groupes, et justement en Italie, je suis un grand psychanalyste qui s'appelle Claudio Neri. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment quelqu'un que je mets sur un piédestal sur le plan du travail en petit groupe, du travail psychanalytique en petit groupe. Donc effectivement, pour l'appliquer avec des médecins, avec des policiers, comme je vous ai dit, et avec des magistrats, j'utilise beaucoup la méthode des groupes Balint. Donc Balint, c'est un psychanalyste hongrois à l'origine, qui est parti au Royaume-Uni à la suite, bien sûr, de l'invasion nazie. Et donc, Mihaly, je ne sais pas comment le prononcer en hongrois, mais en tout cas, il a anglicisé son prénom, donc Michael Balint, a créé des petits groupes de travail pour les médecins. Et faisant partie de la société médicale Balint, je travaille de cette manière-là depuis à peu près 30 ans. Et j'ai donc constaté, bien sûr, personnellement, mais la méthode Balint est utilisée au niveau international. Elle est utilisée, par exemple, chez les Américains. Elle est utilisée en Israël, en Australie, et elle est très utilisée chez nos voisins, puisque je suis en Alsace, chez nos voisins en Allemagne. Et donc, tous les médecins en formation passent au moins une année dans des petits groupes. Petit groupe d'analyse des pratiques, si vous voulez, je vous le traduis, mais on les a appelés tout simplement groupe Balint. Et dans ces petits groupes d'analyse des pratiques, ces médecins peuvent parler de leur relation avec les malades, vous voyez, mais pas juste en parler sous forme d'un dossier. Oui, il s'est passé ça, il a été admis en réanimation, il avait tant de pression en oxygène, etc. C'est pas du tout ça, justement. Là, on travaille uniquement sur la relation médecin-malade, vous voyez. Et donc, puisque je suis ici pour parler de pédagogie, eh bien, en pédagogie, on peut employer la même formule. C'est-à-dire qu'on peut travailler en petits groupes de pédagogues, si vous voulez, donc de professeurs, de maîtres de conférences, d'enseignants, et on va travailler sur la relation avec nos étudiants. Et donc, faire des groupes Balint d'enseignants, chercheurs ou de pédagogues, si vous voulez, me semble être une très bonne méthode complémentaire au schéma que vous avez bien voulu nous développer en Italie, que je trouve très intéressant. Donc, ce schéma dans lequel vous avez offert toute une série de strates de soutien aux enseignants. Aussi bien donc horizontale, c'est-à-dire que tous les pédagogues mettent en commun leurs méthodes didactiques de façon à enseigner online, etc. Donc ça, c'était très intéressant sur le plan des méthodologies partagées, mais sur le plan également vertical, c'est-à-dire, voilà, moi enseignant, qu'est-ce que je fais dans ce métier? Quel est mon idéal? Quels sont mes sentiments inconscients par rapport à mes étudiants? Et comment je peux faire, au fond, pour améliorer ma pratique pédagogique? Donc, vous voyez, j'ai trouvé le schéma de Susanna Sancassani extrêmement passionnant, et je pense que nous pouvons vraiment, bien sûr, avec votre accord, nous pourrions tout à fait nous en inspirer pour offrir ces différentes aides modulaires parmi lesquelles j'inclurais donc ces groupes Balint. Ce serait le côté un petit plus, si vous voulez, pour travailler vraiment au niveau inconscient de ce qui se passe dans la relation pédagogique. Hein, ceci est déjà bien connu, bien sûr, des grands pédagogues. Hein, j'ai moi-même travaillé là-dessus en me formant à la pédagogie, mais je pense que ce serait très intéressant pour tous les enseignants. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous remercie.
Un grand merci Marie-Frédérique Baquet pour cet éclairage qui complète utilement le témoignage de Susanna. Ce que je propose, c'est que l'on traite quelques questions, puisque là on parle pas mal des enseignants et des étudiants, et que l'on va, avec les deux dernières présentations, s'orienter plus vers le management d'équipe et la gestion de crise en entreprise. Alors déjà, j'ai une thématique qui revient dans les questions que l'on voit dans le chat ou que l'on voit dans les questions-réponses, qui a trait à l'angoisse des étudiants. Alors, j'ai juste dire que à Aunège, depuis le 16 mars, nous accompagnons des enseignants pour conduire des classes virtuelles. Et en règle générale, l'outil, comme au Polytechnico de Milan, ne pose pas de problème. C'est vrai qu'on a réussi, en règle générale, à transposer ce qui se faisait en distance du jour au lendemain, à quelques aménagements près, à le faire lorsque les étudiants et les enseignants ne sont pas face à face. Néanmoins, une fois qu'on a passé l'outil, il se pose un certain nombre de questions. Hier, j'ai assisté à un cours de master de santé et de qualité de la vie au travail. Et la question n'était pas la technologie, au contraire, la technologie permettait aux étudiants de s'exprimer. La seule difficulté, c'était que 50% des étudiants étaient réquisitionnés et ne pouvaient pas participer au cours. Et que les 50% restants exprimaient la difficulté qui était celle du groupe. Alors pour revenir aux questions, donc on a des questions sur une question très prosaïque, sur mais qui est importante par rapport à la fracture numérique. Est-ce que en Lombardie, comme dans certaines régions françaises, il y a eu des contributions, par exemple des régions, au financement soit d'un équipement informatique, soit d'une prise Internet. Donc ça, c'est la question, je voudrais dire, relativement prosaïque, mais importante pour l'étudiant. La deuxième chose qu'on nous demande, c'est, on nous exprime, c'est que, en fait, les étudiants demandent autre chose que des cours. Ce qu'ils veulent, c'est, on l'a vu aussi dans certains cours à distance, de trois heures, avec une interruption d'une heure, pendant laquelle les étudiants ont demandé à l'enseignant de garder la salle ouverte pour qu'ils puissent s'exprimer entre eux. Donc ça demande autre chose. Et une autre question aussi qui pose un certain nombre de problèmes, c'est par rapport au maintien de la continuité pédagogique, n'y a-t-il pas des problèmes d'intensité des cours, des emplois du temps pour les étudiants par rapport à ce qu'ils vivent par ailleurs? Voilà donc quelques questions que peut-être Susanna ou vous, Marie-Frédéric, ou d'autres parmi les intervenants peuvent apporter des éléments de réponse avant que nous passions à la dimension plus gestion d'équipe et management de crise.
Je peux commencer, ça va? Pour ce qui concerne le soutien économique, peut-être je ne suis pas au courant de tout, mais de ce que je sais, il y a des soutiens pour les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage certifiées ou des handicaps. Mais il ne me semble pas qu'il y a de soutien généralisé pour l'accès numérique. Il y a des soutiens à l'étude en général pour les étudiants qui n'ont pas un certain income, mais pas spécifique sur la digitalisation. Pour ce qui concerne le fait que les étudiants n'attendent pas, ne demandent pas seulement une leçon, je suis tout à fait d'accord, mais le fait, c'est l'idée de la leçon. Et dans l'expérience que nous sommes en train de chercher de promouvoir, de diffuser, une leçon, c'est un espace d'interaction qui a un objectif d'apprentissage. Alors, dans cet espace, tu peux avoir du partage de contenu de la part de l'enseignant, mais c'est seulement une partie. Et l'importance de projeter une leçon qui a un bon focus, un bon qui s'est bien focalisé sur l'objectif d'apprentissage et qui emploie le contenu, les activités, les échanges, tout ce qu'on peut faire pour arriver à cet objectif. Et à ce bout, on a planifié souvent des petites pauses dans lesquelles les étudiants doivent faire des choses chez eux, et aussi avec la carte, par exemple, avec les moyens physiques. Et en se connectant aux autres étudiants en petits groupes, aussi avec WhatsApp ou d'autres systèmes. Et après, ils prennent des photos, ils mettent les résultats sur l'écran et le professeur, après la pause, va demander à quelqu'un de montrer le résultat. Ainsi, on passe continuellement de raconte de contenu de la part de professeur, un échange entre les étudiants et le professeur. En plus, on a décidé pour certains enseignements de créer des espaces synchrones qui sont toujours ouverts pour des groupes d'étudiants. Par exemple, pour les projets d'architecture, pour les projets de design, pour les projets d'ingénierie. Les groupes d'étudiants ont des espaces dans la plateforme synchrone. Elles peuvent toujours se rencontrer, partager l'écran, partager les softwares et travailler vraiment ensemble.
Oui, merci, Susanna. Oui, je disais que l'Université de Strasbourg, donc on a été amené à prêter des ordinateurs à des étudiants. Il y a eu plus de 80 ordinateurs qui ont été prêtés aux étudiants parce que la région de la Lombardie est très très urbanisée, mais pour nous l'Alsace, qui a pourtant une densité de population très élevée, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez eux en pleine campagne et bien qu'ils aient un accès à Internet, ils n'avaient pas la possibilité de suivre les cours. Alors, vous avez tout à fait raison sur l'idée de définir le cours comme pas seulement la divulgation d'un contenu pédagogique, mais aussi un lieu d'échange. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans toutes les interactions que j'ai eues avec mes étudiants, c'est qu'en fait, ils ne se parlaient pas du tout. J'ai été incroyablement étonnée de cette absence de... Je croyais qu'ils étaient tous sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais en fait, ils ne se parlent pas. Non, ils échangent des photos, ils échangent des vidéos, mais il n'y a pas de parole. Et c'est vrai que lors du cours... Vous avez tout à fait raison de dire qu'un cours, c'est pas juste un contenu qu'on va échanger, c'est aussi une culture. Et en fait, pour nous les psychologues, il y a deux types de culture. La culture du futur professionnel psychologue et la culture du professionnel chercheur. Et donc, lorsque nous donnons un contenu, même sur la méthodologie de la recherche, en fait, il y a toute cette partie d'identification, comme tout le monde le sait, hein, d'identification à la fois au professeur, en tant que personne, et bien sûr, comme vous le savez, il y a une fascination, répulsion, bien entendu, qu'on connaît bien, hein. Mais il y a aussi l'identification au métier de l'enseignant qui est en face de nous. Et donc, pour vous, c'est la designer ou l'architecte. Pour moi, c'est la psychologue ou la psychanalyste. Et bien sûr que ce qui est très important pour nos étudiants, c'est de pouvoir à la fois s'identifier et rejeter. Et ça, c'est très important parce qu'ils rejettent, bien sûr, la génération dans laquelle nous sommes des vieux, d'accord? Mais ils doivent aussi rejeter la pratique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire technique? C'est que, en fait, nos étudiants qui étaient toujours plus forts que nous quand ils étaient dans la salle parce qu'il y avait un bug informatique et que, alors que nous étions lancés dans notre cours, nous disions, tiens, qui veut m'aider à la fois manier la caméra, le ceci, le cela? Et ben, d'un seul coup, les étudiants se sont trouvés moins forts et confrontés à la même difficulté que nous quand, par exemple, ils devaient prendre la parole et présenter un PowerPoint, ce que nous faisions pourtant classiquement très souvent. Mais là, ils ont été en difficulté parce qu'ils devaient être aussi actifs que nous et au même niveau que nous, alors que d'habitude, ils pouvaient nous rejeter tant qu'ils pouvaient. Donc là, je dirais, voilà ce qui m'a paru très net dans la difficulté de nos étudiants. Alors après, je ne sais pas si je peux répondre à la nouvelle question que Jacques Dang nous a proposée, qui était la question de l'intensité des cours. Alors, c'est vrai que nos étudiants se sont tout de suite manifestés pour nous dire que c'était horrible, que nous les avions écrasés sous les cours. Et j'avoue que je crois avoir compris certaines choses, parce qu'en fait, avant, quand nous avions cours avec eux, nous pouvions parler du cours. Et nous pouvions parler, bien sûr, des contenus que nous leur transmettions par la plateforme numérique. C'est-à-dire que, par exemple, je leur transmettais des articles, nous leur transmettons des articles, et il est évident qu'ils vont les lire et qu'ils vont nous adresser la parole à ce sujet après. Or là, toute cette partie a été annulée, en fait, par les échanges que nous avons, qui sont uniquement centrés sur les cours. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'à chaque article que je transmets, et il y en a beaucoup, à chaque article que je transmets, il faut que je fasse une petite fiche, un document Word, où j'explique quels sont mes objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'ils doivent lire, et ils souhaitent que je surligne les parties de l'article qui sont importantes, et qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Et donc, en fait, j'en ai parlé avec mes collègues, bien sûr, en réunion pédagogique, et mes collègues m'ont dit, mais c'est de la folie, mais tu te rends compte du travail en plus qu'on doit faire, en plus de nos cours. Mais oui, mais ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'en cours, pourquoi est-ce qu'on avance si lentement en cours? C'est parce que justement, en fait, nous faisons tout ce travail d'explicitation des données quantitatives que nous leur remettons. Et en fait, en envoyant nos données, si vous voulez, sur la plateforme numérique, nous n'avions plus toute cette partie informelle que nous donnions en cours. Et donc, de mon point de vue, c'est vrai que ça nous fait beaucoup plus de travail, mais je crois qu'il faut que nous fassions une fiche. Je suis désolée, hein, c'est tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, que nous fassions une fiche à chaque fois pour expliquer donc les objectifs, ce qu'on doit retenir, ce à quoi ça va servir, etc. C'est ce qui m'a paru peut-être répondre le mieux aux étudiants.
Alors, je vous remercie pour cette réponse. Je crois qu'il y avait une deuxième dimension dans la question. La première, c'était effectivement bien guider les étudiants dans ce qui se passe dans un cours donné. Et après, c'est l'impact de l'agrégation de tous les cours. C'est-à-dire chaque professeur développe un ensemble de choses à réaliser. Et tout ça, pour un étudiant dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui, s'accumule. Et est-ce qu'il n'y a pas une surcharge sur les emplois du temps? Ce qu'on agrège, tout ce que font l'ensemble des enseignants.
Je vais être très courte là-dessus, pardonnez-moi. Hein. C'est tout simplement lié à ce que je vous ai dit au début. Hein. C'est l'idéal du moi, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Comme on l'a vu, les professeurs dont je fais partie, encore une fois, je ne suis pas du tout ni jugeante ni critique, hein, mais les professeurs ont voulu aussitôt valoriser, non pas leur moi, mais leur discipline, si vous voulez, et aussitôt ont donné très rapidement, et le plus rapidement possible, d'ailleurs là aussi c'était une question d'auto-efficacité, ils ont voulu aussitôt donner tous leurs cours d'emblée, et donc ça a fait une surcharge pour les étudiants.
Merci infiniment pour ces réponses. Je propose que l'on garde maintenant les autres questions vers la fin de la session et qu'on puisse passer aux présentations plus orientées management d'équipe qui font également partie des demandes de nos auditeurs. Patrice ou Déborah. Déborah, donc.
Bon, je pense que là, je suis prête. Merci beaucoup, Jacques, et un grand, grand merci à Suzanne et à Marie-Frédérique Paquet pour ces éclairages, ces témoignages qui résonnent beaucoup avec nous. Je vous propose donc de poursuivre sous un angle un peu différent, mais tout aussi complémentaire. Effectivement, avec le confinement, il y a des équipes, des enseignants, des étudiants qui sont passés en télétravail du jour au lendemain. Tous n'ont pas été préparés à cette situation de travail. Et Susanna et Marie-Frédérique Baquet ont souligné l'importance des interactions et de la dimension relationnelle. Donc, c'est justement l'angle que je propose pour cette assez courte intervention qui va être un aller-retour, en fait, entre la pratique et la théorie. Sur à la fois donc mon expérience, notre expérience au sein de l'équipe au Neige, et aussi par rapport à mes travaux de recherche. Donc, je dois avouer que le travail à distance, c'est mon univers. Je gère des équipes projets à distance depuis 20 ans, dont notamment des membres de l'équipe de Susanna. Et donc, ce qui m'a frappé dans cette photo qu'a montré Susanna des équipes dans l'amphi juste avant que tout le monde reparte chez soi, moi, je sais, parce que je travaille avec ces gens-là, que le travail a continué à distance, non seulement pour le soutien qu'ils ont apporté en local, mais aussi les projets européens que nous gérons ici au Neige ont continué, et son équipe, c'est une vraie inspiration pour nous. Le télétravail, c'est notre univers aussi. Toute l'équipe au Neige est en télétravail par défaut. Donc, il était aussi question de prendre un petit peu de recul par rapport à nos pratiques, voir s'il y a des choses qui peuvent aider les autres. Si tout est pertinent en situation de confinement et situation de crise, on va regarder ça. Et puis, J'ai également une expérience d'enseignement à distance et d'étudiante à distance aussi, parce que la thèse que je mène actuellement sur le sujet du e-leadership, je le fais à distance à l'Université ouverte de Catalogne. Donc effectivement, ces questions de pertinence, le concept au cœur de mes travaux de recherche, c'est le e-leadership et la notion de littératie de leadership pour la pédagogie numérique dans l'enseignement supérieur. On va voir cette question de pertinence, l'expérience de la conduite de projet à distance, le vécu de l'équipe au neige, comme je vous ai dit. Donc regardez un petit peu les éléments et les pratiques qui nécessitent une attention particulière en cette période. Donc, si on prend la définition de e-leadership, on n'est pas du tout dans la notion d'un leader charismatique qui va sauver le monde. Ce n'est pas du tout ça. Là, on est dans un processus d'influence sociale intégré dans des contextes à la fois présentiels et distanciels. Il y a cette notion de médiation par des technologies et cette notion de modification d'attitude, de sentiment, de comportement et de la performance. Donc, pour des équipes en télétravail, mais aussi, je trouve, pour la relation enseignant-étudiant, entre étudiants, on peut en tirer des éclairages également. Donc là, c'est le cadre de référence que j'utilise dans mes travaux de recherche, qui est tiré de la notion de leadership literacies développée par Heather Davis, donc une chercheuse australienne, que j'ai adaptée au contexte de pédagogie numérique dans l'enseignement supérieur. Donc là, il s'agit non pas de compétences, mais d'une série d'attitudes et de comportements autour de 5 dimensions. Donc, on n'a pas le temps de les regarder dans le détail, les 5 aujourd'hui. Je vais me concentrer sur la dimension relationnelle, qui est une des dimensions qui vient en soutien des autres. Donc, dans le cadre d'une étude Delphi qui a été menée maintenant il y a 2 ans, il y a eu 31 experts internationaux qui se sont mis d'accord sur ces éléments-là de la dimension relationnelle. L'idée d'articuler une vision partagée pour donner du sens au travail, investir du temps dans la gestion du relationnel, une culture de collaboration et de confiance, l'empathie, se soucier de l'autre. Donc, tous ces éléments-là, la notion de responsabilité partagée également, et cette notion qui est vraiment au cœur du e-leadership, le fait d'être présent à distance. Et ça répond un petit peu à ce que les enseignants ont dit chez Susanna en Lombardie sur cette notion de solitude. Et là, c'est se placer à la place d'un manager d'équipe ou d'un enseignant et comment avoir cette présence à distance par la médiation des technologies. J'essaie de regarder dans la pratique maintenant comment on peut traduire ces principes. Et là, je trouve qu'on n'est pas si loin de ce que Susanna a dit comme étant la culture du projet. Il y a une imbrication d'éléments autour de l'objectif là du groupe, l'objectif d'un projet. Et là, on va focaliser davantage sur les résultats que le temps passé. On va se mettre d'accord sur les résultats à court terme. Très important, je trouve, actuellement, en cette période de difficultés, de confinement. Travailler sur la compréhension collective et les ajustements nécessaires. Et là, on rejoint justement le collectif, travailler sur la cohésion d'équipe, reconnaître dépendance des différents membres de l'équipe, établir des règles ensemble, et la couche humaine qui englobe le tout, l'empathie, la souplesse, la confiance et l'autonomie. notre vécu. Donc là, c'est à la fois au sein de l'équipe Au Neige, et je sais que j'ai beaucoup de mes collègues de notre petite équipe qui sont aussi en ligne dans ce webinaire. Donc, on aura l'occasion de débriefer après pour savoir si ma perception est aussi partagée. En même temps, on prend pas mal de temps à discuter entre nous sur nos modes de fonctionnement. C'est aussi l'expérience dans les équipes projets européens. Donc, l'humain, surtout, et encore en ce moment, passe par le comment ça va, se soucier de l'autre. On bénéficie de beaucoup de souplesse dans l'utilisation de notre temps, qu'on apprécie énormément. Et je trouve que quand on donne cette souplesse, les résultats sont là. On verra tout à l'heure quelques modèles qui justement reviennent là-dessus. Cette présence, je suis là, mais aussi poser des limites pour se préserver, cette fameuse charge émotionnelle, surcharge qu'a évoqué Marie-Frédérique Baquet. L'informel, on voit beaucoup des apéritifs à distance, les groupes WhatsApp, etc. Se poser la question, est-ce que ça a la place dans une équipe? Quelles sont les pratiques? Quelle est la culture? La reconnaissance, ça ne va pas toujours de soi, ça motive, et c'est très très important pour garder le moral et pour garder la motivation. Accepter aussi entre nous les moments de faiblesse, que ça vient de n'importe quel membre de l'équipe, et c'est aussi quelque chose que j'essaie d'appliquer en tant que chef de projet. C'est normal, on les accepte, on refocalise, on prend le temps. Et tout ça donc autour du collectif et des objectifs que j'avais que j'avais commencé à montrer à la diapo précédente. Je suis allée voir aussi un autre modèle. Là, c'est un modèle, de la recherche sur le e-management. Et là, il y a deux modèles. Il y a un modèle e-communicationnel et un modèle de contrôle. À la lumière de ce que je vous ai présenté, du travail sur le e-leadership et de notre expérience et vécu au sein de l'équipe Au Neige, je pense qu'il est assez clair que nous sommes plus dans un modèle e-communicationnel ici, et ça résonne aussi avec le côté relationnel que je voulais mettre en avant pendant cet exposé. Je vous donne le détail à la dernière diapo parce qu'il y avait bien trop de mots pour mettre sur une slide dans une présentation de ce type. Donc là, c'est la théorie. On revient aussi maintenant sur les défis. Suzanne a aussi parlé de beaucoup de défis qu'elle a rencontrés, qu'ils ont rencontrés au Politecnico du Milano. Il y a ces tensions, se préserver et prendre soin de son équipe. Il y a la question de la limite entre la vie privée et la vie professionnelle qui est importante déjà en temps normal. Alors, je trouve que, en fait, le message ici, c'est que toutes ces choses-là sont amplifiées pendant cette période de confinement et de crise. Il y a des tensions entre les urgences, les injonctions, tout ce qu'il faut faire pour soutenir les enseignants, assurer la continuité pédagogique à travers ses étudiants et prendre du recul. Il y a aussi, particulièrement chez les équipes de soutien dans l'enseignement supérieur, ces tensions entre les questions de hiérarchie et de leadership. Qui a le droit de prendre le leadership? Est-ce que c'est quelque chose de collectif? Est-ce que c'est quelque chose de descendant? Et puis là, on peut aussi s'éclairer par des travaux de Fullen sur leadership from the middle, les notions de middle-out leadership, qui concerne aussi beaucoup les leaderships des enseignants au sein d'un établissement, de l'institution qui est l'enseignement supérieur ou le scolaire, cette notion de reconnaître et mobiliser le potentiel de leadership des enseignants. Et enfin, le leadership distribué, relâcher cette notion de contrôle et donner de l'autonomie, la notion de agency, comme on dit en anglais. Et enfin, et j'ai presque terminé, l'idée de penser et préparer l'après-confinement, qui est quelque chose qui doit aussi nous concerner. Donc, les deux messages, l'humain avant tout, et si on peut prendre du recul, expliciter les manières de fonctionner ensemble, accepter des erreurs. prendre soin de soi et faire confiance. Donc là, je vous laisse avec quelques ressources. Ces supports seront en téléchargement sur le site. Donc, c'était pour vous laisser aussi avec toutes les références scientifiques aussi de mon intervention. Merci beaucoup.
Un grand merci, Déborah, pour cette présentation très intéressante. Je propose que passer tout de suite la parole à Patrice Georget, qui jusqu'il y a quelques jours était directeur de l'IAE de Caen et qui va intervenir sur le thème de maintenir la motivation des équipes. Patrice, c'est à toi.
Eh bien, merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous apporter le témoignage de ce qui s'est passé pendant les 15 premiers jours. Effectivement, j'étais directeur de l'IAE de Caen, que je vais vous présenter rapidement. Et donc, l'idée, c'est de vous expliquer comment, dans l'action, et on prend des décisions en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments à côté desquels, je pense, il ne faut pas passer. Vous verrez qu'il y a beaucoup de jonctions avec ce que nous avons entendu, des éléments un peu théoriques, conceptuels précédents. Et moi, je vais vous parler un petit peu de des mains dans le cambouis, tel que j'étais. Voilà, 5 ans de direction d'IAE et les 15 derniers jours, ça me tombe dessus. Et en même temps, il faut assurer la passation avec mon successeur, Olivier Grassi, donc faire un tuilage pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Alors, petite mise en contexte quand même, l'IAE de Caen fait partie de l'université de Caen, donc université qui est pluridisciplinaire, 30 000 étudiants, 2700 personnels, hein, plus modeste que ce qu'on a entendu tout à l'heure en Italie, 7 campus, 5 antennes, donc tout cela très, très dispersé, et puis l'IAE de Caen, donc qui est un IAE que je pourrais qualifier d'hétérogène, puisque nous avons à la fois des étudiants en formation initiale, classique, en L3, nous en avons 500, des étudiants en apprentissage, 300, 200 contrats de pro. Et puis, nous avons une grosse activité de formation continue avec 900 salariés qui viennent se former ici, dont 600 en présentiel, 300 en formation à distance. C'est peut-être ce qui va faire aussi notre capacité à pouvoir réagir puisque nous avons déjà une petite expertise de la formation à distance. Un chiffre d'affaires de formation continue de 4 millions d'euros. Si je parle de cela, c'est parce que pendant cette période de confinement, vous savez que l'activité doit continuer. Et nous avons la moitié de nos collaborateurs à l'IAE qui sont sous ressources propres. Or, dans le cadre de la formation à distance, nous ne sommes rémunérés de nos prestations que si les enseignements ont lieu. Et donc, bien veiller à ce que pendant cette période de confinement, notre activité continue. On ne peut pas se permettre de suspendre puisque sinon, il en va d'une équipe donc de 25 collaborateurs qui sont sur nos ressources propres. Donc c'est la raison pour laquelle c'est devenu saillant en termes de management d'équipe. Vous voyez, il y a aussi ces éléments de salariés. C'est la raison pour laquelle je vais vous exposer cette présentation très rapide en 15 minutes sous l'angle de ce qu'est une PME dans ce contexte-là et comment j'ai essayé de faire avec l'ensemble de l'équipe pour gérer cette période de transition. Alors évidemment, on n'était pas seul. On avait toute la puissance. Alors, toute la puissance à la fois du réseau IAE France qui, au fur et à mesure, nous donnait des informations et nous a aidés à gérer cette crise avec tout un tas d'éléments sur le plan juridique, sur le plan des bonnes pratiques. Et puis aussi la force de frappe de notre université. Marie-Frédérique en parlait tout à l'heure, mais je me suis beaucoup appuyé sur les services juridiques RH de notre université et en particulier sur le centre d'enseignement multimédia qui nous a bien aidés et que je salue. Alors, derrière tout cela, il y a dans cette présentation trois grandes parties. Une partie sous l'angle de, voilà, il faut maintenir quelque chose avec les collègues, qu'ils soient personnels administratifs ou enseignants, qu'on pourrait qualifier de motivation, conditions de travail, régulation émotionnelle, stress, équilibre des temps de vie. Voilà, il y a un gros paquet, si vous voulez. Là, on en a déjà parlé. Il faut s'assurer qu'il n'y ait ni burn-out, parce que j'ai vu certains collègues qui en faisaient trop, beaucoup trop, ni bore-out, puisque un certain nombre de collègues m'ont dit « Mais tu sais, Patrice, moi, je ne sers plus à rien. Je m'occupais de l'immobilier et de la logistique. Je m'occupais de l'accueil. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je n'ai plus de sens. Je n'ai plus de sens à mon travail. J'aimerais aider les collègues. Je ne peux pas. Et pour moi, c'est une désolation. Donc, voilà, comment agir par rapport à cela. Et puis enfin, sur le plan du management à part entière, dernière partie qui m'a beaucoup occupé, c'est, vous vous souvenez, tout à l'heure, Marie-Frédérique Baquet nous disait, mais voilà, on peut être processus défensif. Notre premier processus défensif, à nous, managers, ça a été de vouloir en faire trop, d'être trop vigilant, trop présent. et d'une certaine manière confiner les gens dans le confinement. Et ça aussi, je pense que c'est un risque à côté duquel il a fallu, qu'il a fallu appréhender. Alors, avant de vous parler de la pratique et des actions mises en place, il y en a cinq, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui a présidé. On a eu 3 jours dans lesquels on a été dans une confusion la plus totale, moi et l'équipe de direction. On était connectés au quotidien, on se demandait comment faire, et puis à un moment donné, il a bien fallu prendre des décisions. Alors, comment ont-elles été prises? Eh bien, je me suis appuyé sur un certain nombre de grilles de lecture. Je pense que rien ne vaut une bonne théorie pour guider son action. Et donc, à ce titre, je suis allé chercher dans ma discipline, moi je suis maître de conférence en psychosociologie, un certain nombre d'éléments qui m'ont permis de guider mes actions et d'observer que ces actions étaient bien guidées par les collègues, les collaborateurs. Alors, j'ai trouvé 2 points de référence sur lesquels je me suis appuyé. D'une part, les collègues de l'Université de Liège qui travaillent sur les risques psychosociaux et qui ont un modèle, un outil qui s'appelle le WORK. Hein. Donc, c'est un outil sur les conditions de travail et les conditions de contrôle de son activité qui permet d'avoir des balises sur la manière dont on va surveiller les conditions de travail. Et puis enfin, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux académiques à propos de la régulation des émotions. Comment est-ce qu'on va gérer le stress sous l'angle des compétences émotionnelles? Comment les renforcer et comment optimiser les stratégies de régulation émotionnelle, comme par exemple le partage social des émotions? Le modèle que je peux essayer de résumer, sur lequel je me suis appuyé, c'est voilà, on se retrouve dans une situation de stress potentiel. Tout le monde ne va pas le vivre de la même manière. Stress lié au confinement, la nécessité de la continuité pédagogique et administrative, l'isolement, il y a tout un tas de paramètres, vous les avez exposés tout à l'heure, chers collègues. La manière dont on va réagir au stress, les réponses de stress, et puis autour de cela, eh bien, des paramètres sur lesquels on peut agir. Nous, les managers, qui renvoient à la régulation des émotions et à la régulation de l'environnement dans lequel on travaille. Et c'est sur ces paramètres sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, de l'ensemble de ce que j'ai pu entendre pendant ces 3 jours de confusion dans lesquels le brainstorming allait dans tous les sens, et de l'ensemble de ces éléments théoriques, conceptuels, on en a tiré un guide méthodologique qui nous a permis d'établir notre action pendant le confinement en termes d'accompagnement des équipes. Voilà, je pourrais parler de management des équipes si vous voulez, je préfère parler d'accompagnement, on pourra voir pourquoi tout à l'heure. 5 basiques. Premièrement, moi, chez moi, devant mon ordinateur, j'ai beau être en famille, mais pour mon activité professionnelle, il faut veiller à ce que je ne sois pas seul. Deuxièmement, il faut que j'ai le sentiment d'être soutenu par mon management. Alors, comment on va faire? Troisièmement, il faut que j'ai le sentiment que je sache ce que je dois faire et qui fait quoi. On a beau être à distance, il faut que je sache ce que fait Sophie, ce que fait Justine, ce que font Jérémy, qui nous écoutent en ce moment, je les salue. Quatrièmement, il faut que j'ai les moyens de faire bien mon travail, parce que j'ai le souci de vouloir bien faire, mais en même temps, si je n'ai pas les moyens, c'est une injonction paradoxale, contradictoire, et donc je peux potentiellement relever le niveau de stress. Et puis enfin, il faut que je sache comment faire mon travail, que j'ai le mode d'emploi, parce que ce n'est pas la même manière de travailler que d'habitude, et donc il faut pour cela avoir une espèce de méthodologie sur la manière de faire. Alors, premièrement, je ne suis pas seul. Le « je ne suis pas seul », ça c'est très important, parce que quand on parle de partage social des émotions, vous savez que le partage social des émotions, ça permet quoi? Ça permet de renforcer l'identité collective, donc le sentiment d'appartenir à un corps qui va nous aider. Le partage social des émotions, ça nous permet d'augmenter l'estime de nous-mêmes, le sentiment d'efficacité personnelle dont nous a parlé Marie-Frédérique tout à l'heure, et puis la prise de recul. Alors, le partage social, eh bien, nous l'animons au quotidien avec un outil, c'est un parmi tant d'autres, peu importe l'outil qu'on utilise, mais il est d'une efficacité redoutable. Nous avons choisi Slack, dans lequel nous avons créé des communautés d'usage. Et donc, à chaque fois que nous avons un projet, par exemple, ici, vous êtes sur un extrait du groupe Slack qui comporte une vingtaine de collègues, qui est focalisé sur les informations que nous devons mettre sur notre site internet. Et chacun contribue, au fil de l'eau, à faire des propositions que nous allons collationner, et le service communication de l'IAE agrège tous ces éléments pour améliorer le fonctionnement du site Internet. Dit autrement, nous avons cherché l'intelligence collective et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Eh bien, nous avons créé autant de groupes Slack que de problématiques à gérer. Il y a un gros Slack comité de direction, perspective générale, blague du matin pour se dire bonjour, continuité pédagogique, et ainsi de suite. Et ces groupes sont ouverts à la fois aux volontaires, nous essayons de faire une contribution collective, mais aussi à des personnes privilégiées qui vont en devenir les animateurs. Et cela participe de la vie d'un réseau, de l'appartenance à un réseau. Je ne suis pas seul, je contribue à l'activité collective avec les collègues, et on a un mélange entre personnel administratif et enseignant. C'est très important de fédérer les équipes de cette manière. Deuxièmement, je suis soutenu et donc j'ai des réponses à mes questions. Alors, il y a deux manières d'envisager le fait d'être soutenu. D'abord, le soutien que l'on peut apporter à tous et à toutes. Et puis, deuxièmement, le soutien que l'on peut apporter aux managers, aux responsables d'équipe, aux chefs de service, appelez-les comme vous voulez, c'est-à-dire aux personnes qui ont une responsabilité sur les autres. Parce que dès le début, on s'est rendu compte que ces personnes-là faisaient beaucoup pour les autres sans pour autant qu'on leur apporte, nous, et énormément d'informations et de soutien. Donc, la colonne de gauche, le soutien apporté à tous les collègues, on a mis en place un process, je pourrais l'appeler comme ça, même si le fait de se réfugier dans le process pourrait être un mécanisme de défense. Marie-Frédérique pourrait nous en parler. Trop de process, il faut s'en méfier. Mais on a mis en place un process dans lequel chacune des trois personnes de la direction de l'IAE, responsable administratif, directeur et directeur adjoint, eh bien, chaque jour, nous sommes donnés comme éthique d'appeler 2 à 3 personnes, des collègues, administratifs ou enseignants, peu importe, dans le but de prendre soin, de parler de la vie, de parler des enfants, de parler de la famille, surtout pas du travail, dans le but de ne pas faire de déni. Il y a quelqu'un qui posait une question sur le forum tout à l'heure à propos de ses étudiants en banque, dans un IAE, qui disait, mais à partir du moment où on a parlé de la situation, on a utilisé le vocabulaire de l'émotion pour parler des choses, ça allait mieux. Eh bien, c'est la fonction de ce coup de fil. En 15 jours, chacun a été appelé 1 à 2 fois. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenir ce lien individualisé dans lequel on est reconnu en tant que personne et pas seulement en tant que professionnel. Ça a été un élément important, un élément fort. Alors certes, tout le monde n'en a pas besoin de la même manière. Certains, c'est le coup de fil. D'autres, c'est un petit bonjour sur SMS. On essaie de s'adapter, mais en tout cas, il y a cette éthique de la relation individuelle que nous avons très tôt mise en place. Ensuite, on a pris en compte, à l'occasion de ce coup de fil ou bien sur Slack, les conditions. Parce que vous le disiez tout à l'heure, les étudiants n'ont pas tous les mêmes ressources. Eh bien, il en va de même des collègues. Il y a des collègues qui ont des contraintes en termes d'enfants à gérer, en termes de vie de famille, des conjoints qui sont dans le monde de la santé, sur lequel il y a des grosses préoccupations. Et donc, il a fallu mettre en place les conditions du travail, et non pas fonctionner par égalité, mais par équité, c'est-à-dire que certains ont plus, d'autres ont moins, parce qu'ils ont plus de contraintes à la maison. Et ça, donc, il a fallu, vous voyez, essayer de peser de façon la plus équitable possible ce que nous allions demander à chacun, sachant que certains proposent bien volontiers leur service, mais qu'on sait qu'à côté, ils ont une grosse famille à gérer, ils ont d'énormes contraintes, et il faut aussi penser à leur place, à la saturation et à ce burn-out qui peut arriver. Colonne de droite, renforcement du soutien apporté aux managers. Écoutez, nous avons un principe de réalité fondamental qui est que malheureusement, certains de nos responsables d'équipe, scolarité, formation continue, peuvent tomber malades, malheureusement, avoir le Covid-19. Et donc, il a fallu penser à l'éventualité de la continuité du service et donc à l'éventualité de les remplacer. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué des groupes qui n'existaient pas, dans lesquels nous avons agréger des collègues qu'ils ont choisis eux-mêmes à ces responsables d'équipe, scolarité, formation continue, continuité pédagogique, de telle façon qu'ils puissent avoir le sentiment que même s'ils lâchent, eh bien, leur activité continuera. Et ça a permis de les alléger, parce qu'ils n'avaient pas le souci de laisser la composante IAE à l'abandon s'ils tombaient malades, et sans que ça permettait de réduire en amont leur sentiment de culpabilité. Et je pense que ça a été important, puisque en l'occurrence, une de nos collègues est tombée malade, a eu le Covid. Elle est une collègue responsable d'un service. Et donc, malgré tout, l'activité, vous voyez, peut être poursuivie. Bon, à côté de cela, hein, nous avons créé aussi un soutien vis-à-vis des étudiants. Je n'en parlerai pas parce que vous l'avez abordé, mais le fait pour les collègues de savoir que les étudiants continuent à être accompagnés est un élément important. Donc, ça a commencé avec une foire aux questions au niveau de notre site internet et puis tout un tas d'éléments sur le plan pédagogique. Troisièmement, je sais ce que je dois faire et je sais qui fait quoi, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de continuité. Alors là, c'est très facile hein, d'être donc perdu dans l'espace devant son ordinateur, interagir avec quelques collègues privilégiés qui font partie de son activité. Je suis à la comptabilité, à la gestion de scolarité, je suis dans l'accompagnement des apprentis et ainsi de suite. Donc, nous avons créé une newsletter et chaque semaine, cette newsletter est envoyée à tout le monde et on dit ce qui a été fait et on dit qui fait quoi. Et on dit, on donne le maximum d'informations, ce qui permet à chacun d'avoir une idée général du fonctionnement. On est à peu près une centaine à l'IAE, hein. Je veux dire 50 profs permanents, 50 administratifs, 420 vacataires. Voilà, chacun reçoit cette newsletter qui permet d'avoir une idée de ce que je fais, de ce que font les autres, et surtout un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que je sais que les autres savent ce que je fais. Donc, c'est une forme de reconnaissance aussi. Voilà, je ne suis pas ignoré dans ce bouillonnement. Quatrièmement, j'ai les moyens de faire mon travail. Alors ça, c'est une approche assez technique. Vous disiez tout à l'heure que certains étudiants ne sont pas équipés en ordinateur individuel. Il en va de même de certains de nos collègues, pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons d'organisation, de vie, des raisons financières et ainsi de suite. Donc, nous avons veillé dès la première semaine à ce que chacun puisse avoir les moyens de faire son travail. Et ça peut passer par un équipement informatique, ça peut passer par une souris. C'est quelque chose de tout bête, mais le fait de ne pas avoir la souris qui permet de bien faire, surtout quand on travaille sur des logiciels de composition, de communication, ça peut devenir un réel problème. Et donc, il a fallu alimenter en moyens techniques les collègues, donc autorisation de sortie, autorisation de livraison, la DSI de l'université nous a beaucoup aidés, les collègues à l'IAE qui font partie aussi du service informatique ont fait en sorte qu'il y ait des VPN, des prises en main à distance de son ordinateur qui soient installées. Et donc là, ça a permis d'avoir la sécurisation des moyens de travail. Et puis enfin, je sais qui contacter, et l'idée là, c'est que il ne s'agit pas seulement de contacter son manager, il s'agit de contacter aussi la bonne personne. Et petit à petit, se sont mis en place ce que j'appelle des formateurs internes, c'est-à-dire des personnes qui vont devenir des points de référence pour m'aider à bien faire mon travail. Et je sais que c'est eux que je dois contacter si j'ai besoin d'un élément en termes d'informatique, en termes de navigation sur un site, un logiciel, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est tout à fait fondamental et c'est devenu un élément crucial, je vais terminer là-dessus, d'avoir des formateurs internes qui vont nous aider à faire quoi ? Eh bien, à savoir comment bien faire mon travail, c'est-à-dire avoir des modes d'emploi. Alors, comment avons-nous fait pour nos modes d'emploi ? Nous avions déjà un certain nombre d'outils, nous faisions de la formation continue, et certains collègues, enseignants, administratifs, en avaient l'habitude, les autres pas. Donc, nous sommes, entre guillemets, servis de ceux qui avaient ces pratiques, la formation à distance, pour pouvoir créer des outils qui permettent de faire comprendre assez rapidement aux autres comment faire. Alors, pour cela, nous avons fait deux choses. Nous fonctionnons par e-campus, dans notre université, c'est un système implémenté sur Moodle. Donc, nous avons créé des pages continuité pédagogique et continuité administrative sur e-campus, de telle façon que l'équipe, vous la voyez à droite, hein, constituée de 4 personnes, une équipe que nous avons là aussi renforcée, constituée de collègues administratifs et enseignants, puisse servir de mode d'emploi à tout le monde. Et donc, au fur et à mesure, cette équipe, chaque jour, crée des outils. Alors, par exemple, des outils en termes de, vous voyez, comment créer une webcom sur Zoom, comment utiliser Zoom, comment insérer du son dans un fichier Word, comment déposer une ressource sur eCampus, et ainsi de suite. Et nous avons déposé tout cela sur eCampus, et enfin, nous avons créé des chaînes YouTube destinées à accompagner la continuité pédagogique, de telle façon que chaque enseignant ou administratif, donc il y a une chaîne YouTube pédagogie, une chaîne YouTube administratif, permettent de se dire, ok, ça je ne sais pas faire, eh bien, je vais aller voir dans la chaîne YouTube comment faire. Et ce sont des capsules vidéo qui durent 1 minute 30 à 2 minutes qui explique comment répondre à l'ensemble des questions que vous avez là. Nous avons aujourd'hui à peu près 25 vidéos. Voilà, au niveau de l'ensemble de ces outils et donc de la méthodologie. Pour conclure, quelques points de vigilance et quelques points forts de cette action que nous avons menée. Au début, gros foisonnement pendant 3 jours et puis une semaine, chacun y va de ses outils. Tantôt Zoom, Slack, BigBlueButton, Adobe Connect Pro, WhatsApp et ainsi de suite. Bon, il a fallu accepter l'hétérogénéité des outils dès le début puisqu'il fallait bien continuer à travailler. Et donc, voilà, on a accepté que chacun aille dans son outillage, sachant que malgré tout, nous avons fixé un cadre parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir 10 000 outils. Il fallait penser aux étudiants derrière qui ne devaient pas s'approprier en permanence de nouveaux outils. Et donc, première difficulté, premier point de vigilance, réussir à concilier la créativité de l'usage des outils numériques avec des fondamentaux. Et donc, il nous a fallu à peu près 10 jours pour arrêter des fondamentaux dans lesquels, aujourd'hui, nous savons que nous avons un point de départ sur eCampus avec BigBlueButton, un certain nombre d'outils. Et puis, nous acceptons d'autres outils. Mais nous avions encore une réunion hier dans laquelle nous avons dit stop à l'usage de nouveaux outils parce que la prolifération allait devenir un réel problème. Deuxième élément, encourager puis canaliser les initiatives. Il y a eu énormément d'initiatives de la part de tout un tas de collègues, c'était formidable. Mais au bout d'un moment, à force de trop d'initiatives, ça devient une salle de créativité, de brainstorming, et finalement, tout le monde s'y perd. Et donc, il a fallu, nous, la direction de l'IAE, progressivement canaliser l'ensemble de ces initiatives sans pour autant les censurer. Et donc, cet équilibre entre l'autonomisation et puis la canalisation du travail de chacun, je pense que c'est un des principaux obstacles que j'ai pu rencontrer, qui peut, vous savez, dans les relations à distance, générer pas mal d'émotions, de réactions, et donc il faut être très vigilant à tout cela. Ensuite, identifier et canaliser les formateurs internes. Nous avons donc maintenant des personnes, je les remercie, qui nous accompagnent pour créer les tutos, pour créer les petites notes techniques. Et donc, elles sont aujourd'hui bien identifiées. Il ne s'agit pas d'en avoir plus, vous voyez, là aussi, canaliser. Et puis, dernier élément, c'est plutôt une conclusion en termes de questionnement, préserver les identités individuelles et professionnelles. J'ai vu pas mal de collègues qui en font beaucoup. Je trouve qu'ils en font beaucoup, ils en font pour certains d'entre eux trop. Et il s'agit de préserver les temps de vie, les équilibres, parce que nous avons quand même un enjeu fondamental dans cette affaire, c'est de tenir dans la durée. Les collègues avant ont eu l'occasion de le dire. Et malheureusement, à force de trop de précipitations d'emblée, on risque de passer à côté de la durée. Et ça, c'est vraiment, je dirais, cette quatrième semaine, ce que nous essayons et ce que mon remplaçant, en particulier Olivier Grassi, va essayer de mettre en place. Voilà, je vous remercie.
Un très grand merci, Patrice, pour cet éclairage. Vraiment, le principe de réalité, la confrontation à la crise. Et au passage, dans une période de transition pour toi, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Et c'est aussi révélateur de la richesse de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur français. Alors, je crois qu'on a un petit peu dépassé, mais peut-être qu'on a répondu à la plupart des questions qu'il y avait dans le chat ou dans les QR, sauf une sur la technique. Est-ce que Gérard peut-être peut prendre une ou deux questions de ce qu'on avait reçu auparavant ?
Oui, des questions beaucoup sur la motivation des étudiants. Donc ça, on y a plus ou moins répondu hein, sur ces questions-là. Des questions aussi sur l'attente. Est-ce qu'on doit attendre que l'institution nous donne des outils ou des moyens, des directives, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on se débrouille tout seul ? Bon, en gros, Patrick Georget a un peu répondu à cette question. Hein, il y a des questions aussi de beaucoup de questions sur la méthode hein, par rapport à l'enseignement en ligne. Par exemple, une question sur comment décrypter les signes annonciateurs d'un décrochage, d'une charge mentale trop forte. Ces questions-là, s'il existe des techniques qui permettraient de surveiller, d'identifier ces moments où on va, en gros, l'étudiant décroche, quoi. Donc, c'est des questions de méthodologie. Voilà, je laisse peut-être. Quelqu'un répond sur cette question de méthodologie ?
Peut-être juste rebondir sur la question d'avance, est-ce qu'on doit attendre l'institution? Je crois que on est tous face à l'urgence et à la crise. On a tous fait, chacun à notre façon. Je vais prendre l'exemple de Sciences Po. Ils ont travaillé avec acharnement pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, ils avaient déployé 18 000 comptes Zoom. Depuis, ils ont eu 150 000 participants. Ils ont maintenu toute leur classe. Et ils ont fait ça plein de réunions. D'autres endroits, je vais prendre l'UT de Béziers. Ils se sont appuyés sur une plateforme de gamers, Discord. Donc, qui fonctionne très bien. Entre-temps, Rénater a augmenté la capacité du service de réunion, je crois, rendez-vous. Voilà. Donc, l'Université de Bourgogne a fait un remarquable travail, par exemple, autour de Teams. Donc, bon, je vais pas être exhaustif, mais je crois que tout le monde avait déjà engagé cette démarche et a dû précipiter le mouvement et a dû faire des choix en disant est-ce que je dois être dispo progressivement à partir du 16 ou est-ce que je dois être dispo complètement à partir du 23 par exemple. Et donc chaque établissement a fait des choix. Voilà, après les étudiants, comme l'a dit Susanna, eux ils ont tout fait, ils ont tout réussi. Aujourd'hui, Susanna nous dit que c'était pas l'essentiel n'est pas suffisant, mais sans doute que si ça n'avait pas été fait par Susanna et son équipe, ça aurait été aussi un problème. Donc bravo aussi à tous ceux qui se sont battus pour faire, même si après on dit que la technologie n'est pas tout.
Oui, je peux ajouter une chose. Surtout la technologie, c'est une infrastructure qui est absolument nécessaire. Mais il faut trouver une balance entre la décision top-down et l'acceptation de la diversité, comme a dit Patrice Roger, Georges, pardon. Pour exemple, dans notre cas, nous avons choisi Teams parce qu'il était déjà intégré dans le système de l'université comme plateforme de classe virtuelle synchrone. On avait déjà un LMS, une plateforme pour échanger les matériels et tout ça en usage par l'université. On a laissé les profs très libres de choisir des autres outils qui pouvaient être intégrés dans la leçon pour la rendre plus interactive et tout ça. Et à propos du décrochage, je dis que si la leçon n'est pas interactive, les étudiants la voient exactement comme ils voient un movie, un film sur la télé, sur Sky. Alors, ils peuvent mettre la pause, voir après. Elle est enregistrée et c'est pas nécessaire de rester là tout le temps à la même heure. Peut-être qu'ils préfèrent la voir après. Le problème, le décrochage, il arrive le plus souvent si la leçon n'est pas interactive. Si tu n'es pas appelé à faire quelque chose, à dialoguer, à répondre, à intervenir. Alors, dans mon opinion, le décrochage, c'est plus souvent. Pas toujours, mais plus souvent le signe d'une leçon qui est trop peu interactive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, peut-être seulement une opinion.
Et sur la question soulevée par Gérard, sur l'enseignement à distance et technique.
Non, il y a une autre question, s'il n'y a pas de réponse. Il y en a une qui me semble intéressante, on n'en a pas du tout parlé dans ce webinaire, mais ce n'est peut-être pas le sujet. Est-ce qu'il y aura, je vais vous lire la question en fait, y aura-t-il un après? C'est-à-dire, est-ce qu'on va réinvestir ces pratiques par la suite? Est-ce qu'on va changer vraiment de paradigme pour l'enseignement? Ou voilà, c'est un petit peu une question sur le futur.
Moi, je veux bien donner un élément de réponse. Je quitte ma casquette au neige, là, je prends ma casquette numérique à l'IAE de Montpellier. Je suis tout à fait d'accord avec Patrice, c'est-à-dire que je pense que Il y aurait peut-être une étude à faire, et là je fais un petit clin d'œil à Laurence, entre les établissements qui étaient déjà très engagés dans le numérique et ceux qui ne l'étaient pas. Donc, quand je sais, ils ont des MOOC, ils ont tout un tas de distance, c'était notre cas à l'IAE de Montpellier, notamment sur les MOOC. Donc, on avait déjà deux ou trois personnes ultra opérationnelles sur tout ce qui était le e-learning, etc. Et qui, dès vendredi 13, bon, voilà, c'est une date particulière, le vendredi 13, on était prêt pour l'ouverture du lundi d'après. Et donc, je pense que ça, c'est un élément quand même important. C'était un petit peu la culture de l'enseignement digital préexistant. Après, est-ce que ça va changer? Alors, ma petite analyse à moi, hein, comme ça, je suis pas sûr que le collègue qui n'y était pas du tout, je suis pas sûr qu'il y soit beaucoup aujourd'hui sous une forme véritablement e-learning, c'est-à-dire que lancer des PowerPoint en PDF, c'est une forme de e-learning vraiment très, très, très ancestrale. Et je suis pas sûr que tout soit totalement modifié post-confinement.
Alors, je vais rebondir là-dessus. Nos collègues anglo-saxons font la différence entre ce qu'on fait, c'est-à-dire le remote teaching dans l'urgence, c'est-à-dire faire de l'enseignement, mais en n'étant plus en face à face et en urgence, et le e-learning. Et là-dessus, je dirais, il n'était pas question, il n'était pas possible de convaincre l'ensemble des étudiants, l'ensemble des enseignants de faire la révolution de leur pédagogie. Et c'était peut-être même pas souhaitable, parce que certains étudiants attendaient simplement que le TD qui avait été fait le jeudi 12 mars soit suivi du TD du jeudi 19 mars avec des présentations, avec la même présentation PowerPoint, peut-être un peu plus rythmé, un peu plus séquencé. D'autres, au contraire, sont passés à une pédagogie plus projet, plus active. Mais je dirais que c'était pas le propos d'imposer aux enseignants de changer dans l'urgence la façon dont ils conçoivent leurs enseignements.
Alors, un autre élément, mais je veux pas monopoliser la parole, mais tu parles des enseignants, il y a aussi les étudiants. À l'IAE de Montpellier, on a la même licence, la troisième année de licence, qui est en présentiel. Et dans le présentiel, on a voulu faire un petit peu l'enseignement hybride. Et là, on a eu des questions d'étudiants, on a dit, mais qu'est-ce que vous voulez nous faire de l'hybride et nous mettre du à distance? Parce que nous, on avait le choix et on a choisi de venir dans votre licence présentielle. Donc, tout le monde n'a pas envie non plus d'avoir tout en présentiel, quoi. Mais ce n'est que mon humble avis. Hein. Je ne sais pas si Patrice, tu veux rebondir ou…
Bien. Peut-être deux éléments. Bon, je vais pas prendre beaucoup de temps de parole parce que je partage vraiment ce que tu dis, Christophe. Premièrement, nous avons une tradition de 30 ans d'enseignement à distance à l'IAE de Caen et nous avons ouvert l'année dernière des diplômes 100% présentiels parce que ça correspond à une demande, en particulier les diplômes de management de proximité dans laquelle on a besoin d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est très difficile de faire une transition complète. Et puis deuxièmement, moi je dirais que on fera bien évidemment, comme dans toute analyse post-crise, un retour d'expérience et on ira chercher les bonnes pratiques. Mais je partage ce que dit Christophe. Là en ce moment, on est en train de gérer une urgence. On est dans un état d'esprit particulier dans lequel on est focalisé dans l'action et on va revenir, on va se poser enfin à la rentrée prochaine, on l'espère tous et toutes, dans un contexte dans lequel les habitudes vont revenir. Mais pour le moins, le type d'enseignement que nous aurons pu apprendre de cette situation, c'est que pas mal de collègues à l'IAE de Caen se seront découverts différemment à travers les groupes de travail que nous mettons en place. Et d'une certaine manière, on profite un petit peu de cette aubaine pour faire en sorte de générer des interactions qui n'avaient pas l'habitude d'être, parce que tout simplement, on est dans deux bâtiments différents, il y a des cultures de lieux, alors que là, le lieu n'étant plus, eh bien, on peut avoir des ruptures et donc se mettre à côtoyer d'autres personnes et donc à initier des postures de travail différentes.
Je pense qu'on va arrêter là les questions. On est tout à fait disposé à continuer à en recevoir par mail et on essaiera d'y répondre. Là, ce que je pense, c'est déjà remercier infiniment les intervenants et notamment Susanna Sancassani et Marie-Frédérique Baquet, Patrice Georget et Déborah. crois que c'est vraiment des présentations qui sont passionnantes et qu'on va essayer de mettre en ligne très rapidement. Et je pense que maintenant, c'est au réseau IAE France et à ONEJE, donc à Marie, à Laurence Macaluso et à Christophe Fournier, de nous ouvrir des perspectives à partir de ce que l'on a échangé aujourd'hui dans ce webinaire.
Eh bien, Christophe. Merci à toutes et à tous, en tout cas.
Christophe, Laurence
Je vais laisser la parole à Laurence, mais je veux bien la prendre. Sinon, c'était... Oui, comme tu l'as fait. Alors moi, je vais remercier les intervenants, mais avant de remercier les intervenants, je vais remercier toute l'équipe ONEJE, d'accord ? Je ne vais pas dire de nom parce qu'il y en a qui sont à l'écran, il y en a qui sont derrière et que c'est l'ensemble des personnes qui font qu'on arrive à mettre en place de tels webinaires depuis 3 semaines, qu'on a aidé quand même pas mal d'instituts. Un travail utile, qu'on amène un certain nombre de choses pour la communauté. Donc, un grand merci pour toute l'équipe ONEJE. Un grand merci à Éric Lamarck, collègue et ami, et à Laurence Macaluso sur le réseau IAE, parce que c'est un vrai régal de pouvoir collaborer avec vous. Un grand merci à tous les intervenants qui sont venus dans ce webinaire. Alors moi, si vous voulez, si je reprends un peu, on a fait un premier webinaire il y a 15 jours. La question, c'était les cours, et puis vite sont venus les examens. Maintenant, c'est à peu près réglé. Du côté des IAE, toutes les formations qui ont des stages dans leur cursus, c'est un peu le point épineux, je dirais. C'est qu'est-ce qu'on fait des gens? Ils sont en stage, ils en ont plus. Ils voulaient signer une convention de stage, nos instances interdisent. En télétravail, pas en télétravail. C'est le seul problème maintenant où on se pose un peu des questions, c'est comment on va valider ce fameux UE stage. Voilà. Donc, on est vraiment maintenant sur les problématiques humaines. On a dit, le confinement, il dure. Je crois que demain soir, il y a l'intervention du président de la République à nous informer que ça se finit pour ce fameux week-end de Pâques. Je crois que c'est parti pour un petit moment. Donc, on est sur ces éléments-là. Et puis, moi, je suis en train de, on est en train maintenant de réfléchir aussi au bout de l'aile et à ce fameux déconfinement et à cette sortie. Et là, je m'interroge un petit peu comment on va plus être confiné, mais on sera dans un mode qui va être, j'ai l'impression, très très bizarre. Je suis pas sûr qu'on retrouve les étudiants avant cet été, et il va y avoir toujours ce que nos administrations appellent le fonctionnement en mode dégradé, ce qui ne veut pas dire que c'est en mode allégé, d'accord. Et moi, je pense que là, il y a des pistes de réflexion sur comment on va gérer cette période entre confinement et l'été, quoi. Voilà. Mais encore, merci à tous. Et je laisse la parole à Laurence pour le réseau des IAE.
Le micro.
Alors, juste si le temps que Laurence reprenne le micro, ONEJE donc et l'Université numérique, on sera toujours là pour essayer de vous accompagner au mieux. Et suivez nos pages de continuité pédagogique qui vont s'afficher dans quelques instants pour savoir ce qui se passe. Et on va essayer de s'adapter comme on l'a fait depuis le début de cette crise pour essayer de vous amener des éléments un petit peu pertinent et qui essaye de participer à la réflexion, et si on vous aide un peu, tant mieux.
Merci Christophe et merci aux équipes d'ONEJE et d'IAE France pour leur mobilisation à la préparation de cet événement qui, comme pour les autres actions que nous menons collégialement, vise à accompagner au mieux notre communauté élargie dans cette période que l'on peut qualifier d'inédite et qui nous oblige à nous réinventer au quotidien, comme on l'a vu au travers de ce webinaire. Je voulais remercier également très chaleureusement nos invités qui ont su partager leur expertise et expérience au travers de